Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine que nous allons bien évidemment essayer de passer de la meilleure manière qui soit ensemble, à vous écouter, à cheminer, à voyager en vous écoutant nous raconter votre quotidien, quelles sont vos prises de conscience, comment vous vivez ce confinement. On entendait Isabelle parler aussi des routiers un instant, donc quelles sont les professions qui vous interrogent, quelles sont les professions qui vous semblent les plus vitales pour le pays. Peut-être que vous avez envie de rendre des hommages, peut-être que vous avez envie de parler de vos voisins, peut-être avez-vous envie de parler d'initiatives qu'il faut souligner à votre avis. Donc nous vous attendons, vous le savez, au 39-21 pour vous raconter. 39-21, c'est 50 centimes d'euros la minute qui sont reversé à l'Institut Pasteur, je vous le rappelle. Vous pouvez nous envoyer vos SMS au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis toujours nous adresser vos mails à libreantenne@europe1.fr. Et puis sur notre groupe de parole Olivier Delacroix, Sabine Marin, la Libre Antenne, vous pouvez nous adresser vos mails. Vous êtes plus de 8000 à partager, à échanger sur ce groupe de parole. Donc n'hésitez pas. En tout cas pour ce soir, vous le savez, nous sommes là, Jean-François, Florian, Philippe et moi-même, nous sommes là pour vous accueillir. Vous pouvez nous appeler, nous, en cette période de confinement, nous prenons même plus de témoignages à l'antenne. Donc n'hésitez pas, si ce soir vous êtes chez vous, tranquille, et qu'il vous vient l'envie de composer ce 39-21, sachez que vous nous aurez beaucoup plus facilement en cette période de confinement. Voilà, et bien écoutez, qu'en dites-vous, on commence ? Allez, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Alexandra au 39-21. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Là tout de suite maintenant, très bien.
Bon. Ouais, c'est bien. On entend une certaine énergie dans bien, ça va bien.
Oui.
Alors, quelles sont les raisons de ce bonheur présent ?
Justement, parce que moi, j'ai décidé depuis maintenant 5 ans de vivre dans le présent.
Oui.
Et c'était ça que j'avais envie d'apporter ce soir. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Et je crois que ce moment-là nous invite à vraiment voilà, lâcher prise et vivre dans le présent. Ce qui permet du coup d'avoir une énergie et de placer cette énergie dans ce qu'on vit.
Alors,
dans des futurs immédiats.
Alors, qu'entendez-vous par là, Alexandra ? Est-ce à dire que cette une situation totalement inédite que nous vivons et qui nous pousse à rester chez nous, peut-être nous amène à prendre conscience, à vivre plus au jour le jour, juste pour aujourd'hui, et vivre ce présent plus intensément.
Enfin, je pense qu'il y a différents niveaux une invitation. La première est de prendre conscience déjà que d'accepter qu'on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle de grand chose en ce moment,
oui.
Que personne ne sait quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir, que personne ne sait finalement qui va être malade ou pas malade. Donc ça nous invite à effectivement être dans le lâcher, de totalement tout lâcher. Et je sais au quel point c'est pas évident pour pas mal de gens justement de ne pas être dans ce contrôle permanent des choses. Et effectivement, un des moyens que j'utilise, c'est effectivement de vivre le moment, l'instant présent de manière intense. Cette fameuse phrase, vivre le moment comme si c'était le dernier.
Mmh.
C'est vraiment se poser là-dessus. Et je crois que c'est, à mon sens, le meilleur moyen pour vivre la situation qu'on vit actuellement.
Est-ce que différents événements de votre vie vous ont amené à un moment à cette réflexion-là ?
Oui. Moi, je suis passée par, alors c'est pas très original, Et j'ai cumulé, on va dire. Moi, je suis d'une nature hyperactive, donc enfant qui avait besoin d'être très occupé, d'occuper toujours son temps. Il est toujours en projection d'eux avec une to-do list énorme, même déjà jeune enfant, adolescente et jeune adulte. Et puis, en 2015, en fait, il y a eu une bascule. J'ai été remerciée du jour au lendemain d'un job, donc j'étais... chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement parisien. Et un jour, on m'a dit, en fait, ça va s'arrêter là. Je ne l'ai pas du tout venu. Je ne l'ai pas vu venir du tout.
Ouais.
Et pour le coup, je venais d'avoir mon troisième enfant qui avait quelques mois. J'avais des projets, des ambitions professionnelles et de vie. Et là, tout d'un coup, voilà, on me dit, ça s'arrête là. Et quand on est dans ce type de posture du recruteur en plein pouvoir, on va dire, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans, là, l'ego, il en prend un sacré coup. Donc, ça a été l'étage de l'ego, ce jour-là, qui s'est retrouvé finalement sur le trottoir. Puis, en plus, j'ai eu une mise à pied immédiate, donc je me suis retrouvée dehors à me dire, à mon tour, j'ai plus de boulot, quoi. Ça m'était jamais arrivé en 15 ans.
Pour quelle raison, d'ailleurs? Est-ce qu'on vous a donné une raison précise?
Honnêtement, avec du recul aujourd'hui, non, sur le moment, les raisons, elles étaient déguisées. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait une situation, j'arrive dans un cabinet qui était en construction depuis une année et clairement, les chiffres attendus n'étaient pas là d'un point de vue global. Et puis, on était les uns et après, moi j'étais à l'époque, j'étais manager, j'avais dû effectivement me séparer de mon équipe. Et moi, en tant que manager, j'avais pas vu le truc venir, quoi. Voilà. Et quand ça a été mon tour, quand ma boss de l'époque m'a dit « Alex, ça va s'arrêter là », c'était d'ailleurs une amie, donc j'ai vu à quel point elle n'était pas du tout à l'aise. Sur le fond, il n'y avait rien. La forme était violente, mais le fond était creux, donc je suis partie la tête haute, j'ai négocié mon départ. Mais c'est vrai qu'au-delà de la forme et du fond, de se retrouver effectivement à l'écoute, en recherche d'emploi, au chômage, à devoir pousser la porte de Pôle emploi, ça m'était jamais arrivé, ça a été très violent, très dur à vivre.
Pourquoi est-ce que ça a été dur à vivre? Pourquoi? Parce que finalement, vous étiez à cette place où vous offriez, vous, du travail.
Justement.
Oui.
Ouais. Justement, moi, je me trouvais du côté du pont où on décide un peu de la vie, de l'appui du beau temps, des candidats, à qui on donne, à qui on donne pas. Alors, je caricature parce que, bien sûr, c'est pas que ça.
Je sais que la Alexandra d'aujourd'hui a beaucoup changé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Et cette Alexandra d'avant, qui faisait la pluie et le beau temps, qui avait le pouvoir de transformer presque une vie, parce que quand on est chasseur de tête, ça veut dire qu'on chasse pour de gros industries, en tout cas des postes importants, donc on a un certain pouvoir. Est-ce que ça vous était monté un peu à la tête aussi?
Bien sûr, mais totalement monté à la tête. Alors après, moi, je pense que j'ai toujours eu une empathie qui a toujours été là, et je l'ai toujours fait, ce métier, avec le cœur, et j'aimais vraiment ça. Donc il y avait une partie de moi qui était vraiment dans le sens. Après, le sens, j'ai fait pendant 15 ans ce métier, donc le sens, au début, je l'avais, je l'ai un peu perdu au fil du temps, parce que ce métier a aussi beaucoup bougé. Et puis, je pense que aussi, on change. Donc, sur les 5 dernières années, je commençais à manquer de sens et à vraiment à le faire à la façon de combien tu dois faire à la fin de la semaine, combien tu fais à la fin du mois. Et finalement, chaque candidat mis en poste, c'était un chiffre, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait plus ce sens. J'avais eu différents signes qui étaient venus que ce métier était plus fait pour moi, et je les ai pas écoutés. Je les ai pas écoutés par peur, par manque de confiance en soi aussi, et puis parce qu'effectivement on se sent à une place un peu privilégiée. Et puis c'est des métiers aussi, on est souvent contacté par la concurrence, on est très sollicité, donc on se sent protégé. Et puis on connaît un peu le système, donc on se dit, nous, ça ne nous arrivera pas.
Ouais.
Et puis en fait, ça nous arrive. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien dire aujourd'hui, que vraiment, ce jour-là, l'ego a pris un bon coup dans la tête. Et là, donc, on m'a obligée à lâcher prise. Et puis, rapidement, en fait, j'ai traversé un burn-out, puisque pour le coup, j'étais déjà en burn-out, mais je ne le savais pas, pour la petite histoire. Donc, quelques semaines après, c'est mon corps qui a lâché. Donc j'ai eu tout un été où j'étais vraiment, j'ai d'ailleurs aucun souvenir aujourd'hui pratiquement de cette période,
ouais.
où j'ai vraiment été perdu. Dans le corps, c'était très difficile, ouais. complètement perdu. Et puis, je disais, le troisième élément, électrochoc, c'est qu'au mois de décembre la même année, donc je perds ma meilleure amie d'un cancer. Et pour le coup...
Quel âge avait-elle ?
Elle avait 46 ans.
D'accord.
Et deux jeunes garçons. Donc on était maman toutes les deux. Alors je ne dis pas que quand on n'est pas maman, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que moi, là, tout de suite, là, il y a eu un...
Une prise de conscience, sans doute.
Ouais, une prise de conscience. Je veux me dire, elle laisse deux jeunes enfants. Et moi, je me souviens précisément, je suis dans l'église. Et je me souviens précisément du moment où je me dis, mais en fait, ça aurait pu être moi, quoi. Ça aurait pu être moi. Et c'est elle que j'adorais, qui était vraiment comme... comme une sœur, c'était quelqu'un qui était en super santé, elle était danseuse, elle avait beaucoup de choses pour elle, fumait pas, buvait pas, enfin voilà, la maladie vraiment c'est acharnée, et ça du coup donne aussi la conscience que finalement nous ne sommes que des êtres humains, que la maladie n'est pas qu'une personne et que finalement ça tient à pas grand chose quoi, voilà.
Ouais.
Et ce jour-là il s'est passé, il y a eu vraiment un avant et un après. Voilà. Donc il y a eu, c'est monté crescendo, mais il y a eu vraiment un avant et un après. Et du coup, alors je dis, ça s'est pas fait non plus dans un claquement de doigts, parce que moi après je me suis fait accompagner quand même. Hein, le processus de deuil, il s'est fait à la fois donc comme vous l'avez compris professionnellement parlant,
oui.
Il s'est fait dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé, et puis avec cette amie. Donc processus de deuil, je l'ai vraiment vécu les trois en même temps, et ce qui m'a vraiment permis de prendre, on va dire, une juste distance par rapport à ces événements, c'est effectivement voilà, de comprendre qu'il fallait lâcher prise, un, et deux, vivre dans l'instant.
Je pense que votre ami, votre ami vous a fait... Enfin, c'est comme une sorte de conclusion, en tout cas, une conclusion de la réflexion que vous meniez depuis un moment. Je pense que cet événement-là est venu... dans l'ordre, vous me l'avez rencontré de manière très importante parce que on sent que cet événement-là vous a fait prendre conscience de la valeur de la vie uniquement et
oui.
Sorti de toutes les considérations matérielles que l'on peut créer hein, nous-mêmes et surenchérir alors que la vie tout à coup lorsqu'on est face à la maladie et donc ensuite face à la mort il n'y a plus tout ça, c'est tellement futile.
Typiquement, la perte du travail n'a plus la même saveur. Ouais. On prend. Moi, j'avais mis des choses telles qu'elles sont mon corps un peu de côté. J'ai eu trois enfants. Je m'occupais plus vraiment de moi. Enfin, je faisais plus mon sport. Voilà, j'avais mis tout ça un peu de côté. Et puis, c'était que la vie pro, finalement, qui avait pris le dessus et je nourrissais mon égo. Hein, c'est ce que je dis, je nourrissais autre chose que qui j'étais.
Ouais, ouais.
Il a fallu... Alors, la petite histoire, quand même, c'est qu'il y avait eu d'autres... j'avais eu d'autres signes avant, mais que je n'ai pas écouté. Et souvent, ce que je dis, quand aujourd'hui j'accompagne, souvent ce que je dis aux personnes, c'est qu'en fait, il y a plein de signes qui viennent régulièrement.
Quels étaient ces signes, Alexandra?
Moi, j'ai trois enfants, six grossesses, donc j'ai quand même fait des fausses couches avant chaque enfant.
Oui.
C'est quand même des signes forts. J'ai eu dans un de mes postes, j'ai été face à quelqu'un qui était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un pervers narcissique, donc que j'ai vraiment pris en frontal et j'ai continué.
Votre mari, donc le père des enfants.
Non, au travail, pardon.
Ah, au travail, d'accord.
Au travail, okay. Ouais, c'était une de mes bosses. Et puis voilà, régulièrement, la vie, il y a eu des épisodes. Comme tout le monde, je dirais qu'on se dit, on se dit, c'est normal, c'est la vie. Ils passent, on les voit. On ne leur donne pas la mesure de ce qu'ils sont.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis,
on encaisse.
C'est ce que j'appelle effectivement la résilience, quoi. On prend.
Ouais.
Et je dirais souvent, lorsque j'explique aux personnes, c'est que le danger, c'est que, c'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui, c'est que ça monte toujours un peu crescendo, en fait.
Ouais. Et le danger voilà. pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que le danger, c'est que lorsqu'on est victime de ce type de personnes, ça peut durer très très longtemps dans une vie ensuite, parce que on a tous été victimes à un moment ou un autre Alors tous, je ne sais pas, mais en tout cas, en grande partie, si, je pense qu'on a tous été victimes de personnes qui outrepassaient leur pouvoir, en fait, hein, et qui allaient beaucoup trop loin. Et au final, on s'est beaucoup allongé, on l'a fermé beaucoup, hein, devant ce type de personnage. Donc,
oui, moi j'avais 24 ans, c'était mon premier job, je me disais c'est normal, quoi.
Voilà. Ça fait mal, ça, hein. Ça fait mal.
Oui. Et c'est aujourd'hui où je suis capable de la remercier parce que j'ai appris beaucoup de ça avec la maturité, l'expérience. Mais et du coup, je les reconnais maintenant.
Oui. C'est vrai que quand on a eu affaire, une fois ce type de personnage, on arrive à identifier quels sont les premiers signes pour prendre ses jambes à son cou.
Clairement.
Mais bon, il est certain que quand on a 24 ans, bon, la vie reste à faire.
Puis c'est votre boss, tout le monde lui accorde, parce que c'est souvent des gens qui ont un charisme, qui on accorde au grand public, ils ont le verbe, voilà. Et puis, quand c'est ce qui se passe... Parce que vous subissez, ça se passe derrière, quoi. La plupart des gens ne le voient pas.
Mais dans ce que vous décrivez, Alexandra, parce qu'on évoque souvent ce terme de pervers narcissique, et on parle de ces individus comme des individus qui se nourrissent du mal des autres. C'était le cas de cette femme. Elle se nourrissait des blessures qu'elle infligeait aux autres.
Alors, elle se nourrissait, ce qui était très pervers. Alors, j'ai un peu de mal, moi, avec ce terme pervers narcissique, mais on va dire que, voilà, c'est... là où il y avait la perversité, c'est que elle avait un comportement à la fois de mère, hein, donc elle se positionnait comme une mère, on était nous, toute une équipe assez jeune, hein, elle avait l'âge de nos mères, justement. Et puis derrière, elle pouvait arriver le lendemain et avoir un comportement vraiment très dur, très maltraitant. Voilà, donc elle passait d'un état à l'autre. Et on ne pouvait jamais nous savoir qui on allait avoir le matin en arrivant au travail. Donc c'est là où était la perversion, quelque part. Et puis clairement, aujourd'hui, que je suis en âge d'observer ça, je me dis, mais quand on est au travail, on n'a pas à avoir ce comportement. C'était ni ma mère, ni... c'était ma bosse, quoi, point.
Et
c'est vrai qu'à 24 ans, et puis clairement, je pense que le manque de confiance que j'avais à l'époque, je subissais parce que, voilà, je ne connaissais que ce modèle, finalement.
Bien sûr. Par rapport à l'éducation, sans doute, que vous aviez reçue aussi, qui était sans doute une éducation où la réussite faisait partie de la conception d'une vie réussie, en fait. Comme c'est encore beaucoup le cas pour pas mal de gens. Hein.
Exactement. Oui.
Alors, vous vous sortez de tout cela. En fait, revenons au moment où votre ami part. Ça provoque chez vous une onde de choc.
Oui. Oui, et moi, ce qui va être, si je peux donner une clé ce soir, ce qui va être vraiment ma petite lanterne dans ce tsunami, ça va être l'hypnose. Donc, je vais être suivie pendant quelques temps par... d'abord, je fais une première expérience, ce que je découvrais plus tard être de l'hypnose spirituelle. Si on m'avait dit à l'époque que je n'y serais pas allée, parce qu'à cette époque-là, je croyais en rien du tout, mais n'empêche que cette expérience-là était vraiment... incroyable, c'est vraiment, ça a duré 4 heures, je pense que ça a duré, enfin, quand elle me dit combien de temps ça a duré, je sais pas, 15 minutes, alors qu'on est resté pratiquement 4 heures, et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, surtout l'état dans lequel je ressors de cette expérience, est juste dingue. Et donc...
Qu'est-ce que c'est que l'hypnose spirituelle?
Eh bien, à ce moment-là, elle s'appelle Rachel, et elle va me faire faire un voyage dans mes vies antérieures. Voilà, donc je vais aller faire un parcours de qui j'étais. Alors honnêtement, hein, quand on y va, elle me dit pas, hein, que c'est ça que je vais voir. Elle me propose de monter dans une montgolfière, puis dans une soucoupe, et puis on monte, puis elle me demande de décrire ce que je vois, et je vais faire un voyage incroyable. Mais c'est surtout ce que je vais ressentir dans le corps qui va être très très fort. Je vais pleurer, rire, sentir des douleurs à certains endroits dans le corps. Enfin, ça va être... une expérience très riche, et quand je sors de cette expérience, en fait, je comprends que, bon, elle me dit déjà que je suis très très réceptive à l'hypnose, et du coup, elle me conseille que, parce que pendant la séance, quand même, revient ce processus de deuil que je suis en train de vivre, et elle me conseille du coup d'aller voir un thérapeute pour accélérer un peu le processus.
Oui.
Et donc, bon, je fonctionne un peu comme ça. Un, je vais aller voir un thérapeute. Et deux, je m'inscris en école pour devenir hypnothérapeute. Donc, je vais faire les deux en même temps, en fait. Voilà. Parce que je veux, en fait, ce que je lui dis, c'est que moi, je veux savoir faire ça, quoi. Je veux faire ça toute seule. Voilà, je veux comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre. Il y a une partie de moi qui croit, une partie qui n'y croit pas vraiment. J'ai besoin de comprendre le mécanisme. Donc, j'ai la chance de tomber sur une hypnothérapeute qui va effectivement m'indiquer une école, l'école qu'elle a faite. Et pendant que qu'elle me suit, ben, en même temps, je vais suivre des cours. Voilà. Et ça a été très très riche parce que du coup voilà le processus deuil s'est fait de manière accélérée quoi.
Mm-hmm. Enfin, quand même, c'est tout de même une démarche un peu commune que vous avez eue là. Parce
c'est
que,
vrai, mais j'ai peu commune en fait.
Oui, mais j'entends, mais vous alliez chercher quoi exactement dans cette formation? Parce qu'il y a sans doute une volonté de comprendre les choses, d'aller au bout de vous, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté dans l'apprentissage que vous apprêtez à faire, l'envie aussi de transmettre aux autres?
Ouais, alors au moment où je le fais, honnêtement, c'est très égoïste. Bon, clairement, j'ai plus de boulot. Je sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Et je comprends vite qu'il y a un temps pour moi là, et que j'ai toujours bossé, que j'ai jamais pris ce temps. Donc, j'ai de la chance d'avoir un contexte familial qui me permet de le faire. Et donc, à ce moment-là, j'y étais très bien. Cette école, elle propose une formation sur 6 mois, tout un processus. Et donc, je me donne 6 mois pour faire. Mais vraiment, au début, c'est moi comprendre. Et je me dis, voilà, c'est vraiment un appel. Je peux même pas l'expliquer vraiment. C'était un appel du cœur. Alors maintenant, je sais pourquoi. Mais sur le moment, je sens vraiment que ma place, elle est là et que je dois faire ce travail-là avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Oui.
Voilà, et donc...
Il y a des questions d'intuition, là, quand même.
Oui, beaucoup. Et en fait, tout c'est... À ce moment-là, au moment où je décide de ça, bon, la rencontre avec Rachel, puis l'hypnothérapeute que je vais rencontrer, puis l'école où ils prennent mon dossier, et puis même, je me fais financer une partie d'information par Pôle emploi. Elle n'y croyait pas du tout, ma conseillère à l'époque. Et je lui montre un dossier de béton, et ça passe. Donc vraiment, j'ai une chance inouïe, et je me dis, non, mais si ça se fait, c'est que je dois y aller. Et vraiment, la vie va me démontrer que j'ai bien fait, puisque les gens que je vais rencontrer, tout ce que je vais découvrir... En état de transe, ben c'est ce que j'ai construit là en 5 ans. Et tout va se faire là dans ce processus. En fait, pendant ces 6 mois-là, je vais descendre quelque part tout le travail qu'on peut faire en étant accompagné par un coach ou un thérapeute. Moi, je vais tout faire pendant cette école et bien sûr avec cette thérapeute en parallèle. Mais c'était vraiment un appel. C'était ma place à ce moment où je l'ai fait.
Et alors concrètement, est-ce que vous pouvez... nous expliquer comment ça se passe cette formation, parce que c'est assez mystérieux pour moi, pour tout vous dire.
Ouais.
Une fois je suis allé voir une hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Bon, et c'est vrai, je n'ai jamais fait appel, mais j'y crois beaucoup, hein. Je veux dire, c'est même pas une question d'y croire. Je sais que c'est une science aujourd'hui qu'on utilise même à l'hôpital pour certaines opérations, donc et qu'aujourd'hui on fait beaucoup de bien pour en tout cas, on passe par l'hypnose pour beaucoup de choses. Mais là, quand on n'en a jamais fait, qu'est-ce que vous faites au début avec
Alors,
qui, comment?
Ouais, cette école, elle a vraiment. La volonté de vouloir initier... je me souviens que dans mes cours, il y avait aussi bien des infirmiers, des médecins, que des gens en reconversion professionnelle, hein, voilà, qui avaient une âme de thérapeute, qui avaient la volonté d'être aidant. Hein, clairement, on n'est pas là. Voilà. Donc, quand même, on me dirait une bonne moitié de reconvertis et l'autre moitié des gens qui étaient déjà des soignants. Et cette école-là a vraiment vocation à être dans la pratique très rapidement et à nous faire vivre ce que c'est que la transe. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que quand on arrive à rentrer en transe facilement et qu'on goûte à ça et qu'on arrive à rentrer, ça fait de nous aussi des bons thérapeutes, en fait. Voilà. Mm-hmm. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui connaît l'expérience. On peut pas être thérapeute en hypnose si on n'a pas étudié l'expérience.
Donc, on est très vite dans la pratique, c'est ce que vous
voulez dire. Donc, très, très vite. Le premier jour, il nous donne des grandes, alors c'est l'hypnose ericksonienne, il nous donne des grandes, voilà, mécanismes de qui Erickson et ce qu'il a fait. Et puis, très vite, on rentre dans la pratique avec des protocoles, avec un objectif. Et très vite, on pratique. Donc, on passe, un coup, on est patient et un coup, on est thérapeute. Tout de suite, voilà.
D'accord.
Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Alors, évidemment, on est si on est là, il n'y a pas de hasard non plus. Je pense qu'il y a un conditionnement inconscient qui se fait, qu'on est OK, voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus réceptives que d'autres. Et moi, j'en fais partie, j'ai cette chance-là de partir très vite. Parce que aussi, je pense que mon inconscient, à ce moment-là, avait besoin. C'était salvateur pour moi, hein, clairement. Mais souvent, ce que j'explique aux personnes, c'est qu'on est tous, on fait tous des trans, en fait, toute la journée. C'est un état naturel.
C'est-à-dire, alors dites-nous un peu, expliquez-nous, qu'est-ce qu'une transe, parce que...
Un exemple tout bête, vous êtes en voiture, alors peut-être pas en ce moment, hein.
Non.
On est en voiture ou en vélo, et puis tout d'un coup on se dit, ah, tiens, on est déjà là. On s'est laissé guider, on a conduit, on s'est pas rendu compte qu'on est arrivé à destination. Mais pendant ces quelques secondes-là, on a été en transe. Et en fait, c'est nécessaire pour le mental de couper et de laisser l'inconscient. C'est comme si on avait deux pilotes, en fait, dans l'avion, et qu'il y a des moments où le cerveau a besoin de se mettre en pause et de laisser l'inconscient rentrer et de piloter. Donc on vit tous un nombre de fois incalculable des états de transe dans la journée. C'est la phase avant le sommeil. C'est par exemple un enfant à qui on dit « t'es dans la lune, reviens ». Voilà, ben lui, il est parti dans ses pensées. C'est quand on lit un livre et que tout d'un coup, on a lu un paragraphe, et tiens, on ne sait plus ce qu'on était en train de lire.
Ouais, ouais.
Donc, voilà. Donc c'est vraiment des moments qu'on vit tous.
Ce sont donc, si je traduis un peu, ce sont des moments où on est dans un autre niveau de conscience. La conscience éveillée, guidée par nous-mêmes, mais quelque chose qui ressemble à... comme si on laissait cette conscience aller seule, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
D'accord.
Ouais. Et c'est un état naturel.
Ouais, c'est un état naturel.
On n'a pas besoin de l'avantage, c'est qu'on a besoin de rien pour être dans cet état-là. Il n'y a pas de psychotrope, il n'y a rien. C'est légal et très agréable.
D'accord.
Donc quand on sait goûter à ça, c'est magique, parce qu'effectivement, on peut tous faire de l'auto-hypnose, hein. Et puis aujourd'hui, c'est que c'est la mode de la méditation, et c'est quelque part une forme aussi de transe, hein, c'est un état modifié de conscience.
On va continuer à en parler, Alexandra, si vous voulez bien. On va marquer une pause pour l'info sur Europe, et puis je vous retrouve juste après le flash, d'accord?
Ok, avec
plaisir. Tout à l'heure.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Europe 1, radio ouverte.
Hashtag radio ouverte, c'est un vrai besoin d'être ensemble.
On a des athlètes qui non seulement ne s'entraînent plus, mais cela fait 10 jours qu'ils glandent devant la télé en mangeant de la glace, des chips et de la mayonnaise.
Est-ce qu'un chef malade peut aller travailler? C'est-à-dire que nous, on peut exercer notre métier dans un sale état.
De toute façon, vous êtes malade, là.
Moi, je veux pas être indiscrète, mais sexuellement, ça se passe bien ou...
C'est pas indiscrète, je voulais pas être indiscrète du tout.
La chose la plus importante en ce moment, c'est la solidarité au niveau local.
On pourra pas en sortir pareil.
On peut pas, oui, c'est sûr.
Europe 1, un seul numéro, 3921, 50 centimes la minute, et sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte.
Europe 1, il est 23h. L'info, le flash, Isabelle Mier.
Avec les derniers chiffres fournis ce soir par le directeur général de la Santé, 418 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux, ce qui porte à plus de 3000 le nombre de victimes dans notre pays. C'est la plus forte augmentation, hein, sur une journée depuis le début de l'épidémie. 5100 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. Une cargaison de 10 millions de masques de protection est arrivée aujourd'hui en France. C'est la deuxième livraison depuis la Chine. Il y en aura beaucoup d'autres. Le gouvernement a commandé 1 milliard de masques. Et justement, demain, Emmanuel Macron a prévu de visiter une usine de masques située près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Il s'agit du plus gros des 4 producteurs français. Après l'Alsace, la Moselle, la directrice de l'hôpital de Metz-Thionville appelle à l'aide aujourd'hui. La situation est critique, dit-elle. Quasiment plus de lits disponibles en réanimation. Elle demande à pouvoir transférer des patients. Il y a d'ailleurs eu de nouveaux transferts aujourd'hui encore, mais depuis Strasbourg vers des hôpitaux allemands et suisses. En Italie, le confinement est prolongé au moins jusqu'à Pâques, c'est-à-dire jusqu'au 12 avril. Un navire hôpital militaire de 1000 lits est arrivé aujourd'hui dans le port de New York pour soulager les hôpitaux de la ville. À bord 12 salles d'opération, 1200 soignants. Il doit accueillir ce navire des malades nécessitant des soins intensifs qui ne sont pas liés avec le virus. Un hôpital de campagne a par ailleurs été installé dans Central Park. En Grande-Bretagne, le prince Charles, qui avait été testé positif au coronavirus, est sorti de ce confinement. Il est en bonne santé, nous dit-on. Comme chaque jour, je vous livre les principaux enseignements de notre enquête réalisée avec BVA et Orange sur la façon dont nous vivons cette épreuve collective à titre individuel. Alors on note que le moral des Français reste fragile en dépit d'un léger mieux avec une note moyenne de 6,1 sur 10. La sortie de crise semble toujours aussi lointaine puisque pour les trois quarts des sondés, le pire est devant nous. De manière plus générale, on observe de réelles différences de perception et de vécu dans la durée. Les femmes en particulier semblent vivre la situation plus difficilement, sans doute en raison de situations plus précaires. Dans certains cas, leur moral est moins haut que celui des hommes et elles sont moins confiantes en ce qui concerne la situation économique de leur foyer. Un mot encore pour vous dire que le mondial de l'automobile prévu en octobre à Paris est à son tour annulé, en tout cas dans sa forme habituelle, compte tenu de la crise profonde qui touche actuellement le secteur. On connaît la date des prochains JO de Tokyo qui s'ouvriront finalement le 23 juillet 2021, c'est-à-dire un an pratiquement jour pour jour après la date d'origine. Et puis les Français sont scotchés devant la télé. C'est un effet du confinement, bien sûr. Vous avez regardé en moyenne le petit écran 4h29 par jour en ce mois de mars qui s'achève. C'est un record. Les niveaux d'audience des journaux de 20h notamment sont au plus haut. Alors la télé c'est bien, mais n'oubliez pas surtout d'écouter la radio et en particulier votre libre antenne avec Olivier Delacroix.
Oui, il y a beaucoup de monde qui écoute la radio aussi, Isabelle. Hein. En ce moment, donc nous sommes là pour vous, chers amis. Et l'info est assurée 24 sur 24 sur Europe aussi. On vous retrouve tout à l'heure à minuit.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Isabelle.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Heures passées de 4 minutes, vous êtes toujours sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui vous emmène ce soir en direct jusqu'à 1h du matin, chers amis. Si vous voulez nous joindre, vous connaissez le chemin, 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et puis toujours vos remarques, vos conseils, vos questions au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous échangeons ce soir pour débuter cette émission avec Alexandra. Alexandra qui a vécu une véritable prise de conscience lorsqu'elle perd son boulot de chasseuse de tête et puis qu'elle vienne dans sa vie des événements dont le départ de l'une de ses amies touchée par un cancer. Une prise de conscience pour Alexandra qui a nous expliqué qu'elle entame ensuite une formation d'hypnothérapeute. Nous parlions de cet état de conscience, donc Alexandra, état de conscience un peu téléguidé par notre esprit, état de conscience que nous vivons tous. Finalement, en fait, ça vous a mené où tout ça ? Est-ce que cette formation et puis la pratique ensuite vous a encore mené à d'autres prises de conscience ?
Oui, en fait, ça n'a jamais arrêté. Ouais. Ça ne s'arrêtera jamais, je crois.
Je crois que la vie est un peu comme ça, normalement.
Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on comprend que le chemin, entre guillemets, de libération de l'ego, c'est d'être tout le temps en transformation. Voilà, donc, moi, ça fait 5 ans que je transforme tout, en fait. Voilà, tout c'est... Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une chose que j'ai faite qui ne s'est pas transformée en 5 ans.
Génial.
Ouais.
Ça doit faire de vous quelqu'un de très, très différent de la Alexandra d'avant, chasseuse de tête.
Oui. Mon mari, qui est toujours là après 18 ans, ne reconnaît pas, n'a pas la même personne aujourd'hui face à lui. Et en même temps, je pense que ça a toujours été là, mais voilà, c'était écrasé par le poids du regard de l'extérieur, par les peurs, par voilà, par la culture, par l'éducation. Mais je pense que l'Ephraïm d'aujourd'hui a toujours été là, quelque part. Au plus profond de moi, elle a toujours été là.
On parlait de l'éducation tout à l'heure, du modèle.
Ouais.
C'est vrai que nous sommes tous très influencés par ce modèle que notre société nous impose aux hommes, aux femmes, avec souvent cette culture judéo-chrétienne où il y a tout un tas de signes, de choses, de chemins à suivre et surtout ne pas être à côté. Et si on est à côté, on peut vite être regardé comme quelqu'un qui est un peu hors norme. Mais finalement, il faut avoir le courage de ça. Et ça, je voulais vous en parler parce que on en parle ce soir comme ça, d'une manière légère, mais ça n'a pas dû toujours être facile d'imposer, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous avez dû continuer de subir parfois le regard des autres, le jugement des autres. Ceux qui vous avaient connu avant comme chasseuse de tête, et c'était quand même un gros changement d'un seul coup.
C'est plus mes amis en fait.
Ouais, c'est ça.
Non, mais il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est qu'avec beaucoup d'amour, je regarde l'éducation que j'ai eue de mes parents et d'une grand-mère extrêmement aimante. Et mes parents m'ont pas, au contraire, m'ont appris la liberté d'être, de penser. J'ai été élevée là-dedans, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs. Parce que moi j'ai un père qui a mené plusieurs vies dans sa vie, qui était très un entrepreneur dans l'âme, qui était très critiqué d'ailleurs à l'époque. Et je pense que c'était quelqu'un qui aurait dû vivre aujourd'hui sa jeunesse en fait. Un grand-père aussi, enfin qui était comme ça, qui a voyagé dans le monde entier alors qu'à l'époque on voyageait pas. Enfin, moi j'ai une histoire familiale où finalement les gens ont toujours été dans cette démarche là. Et pourtant malgré ça. Je me suis, je vais parler pour moi, quand même enfermée dans, dans ce que la société veut de nous. Voilà.
Mais parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel, ce dont vous parlez.
Oui.
C'est quelque chose de l'ordre de sentir, sans doute votre grand-père, votre père, ont senti comme vous à un moment l'appel du souffle de la liberté, du vent de la liberté, parce que ça n'est que ça. Finalement,
oui,
c'est écouter ses intuitions, bien évidemment, mais ses intuitions, elles sont souvent guidées par notre envie de nous libérer, notre envie de liberté, en fait, de faire ce qu'on a envie de faire. Et, et souvent, on est empêché de le faire parce qu'on va dénoter ou parce que la majorité des gens pensent autrement. Et c'est là où, finalement, c'est très compliqué d'arriver à sortir du moule.
En fait, il y a différents niveaux. Il y a nos propres croyances, est-ce qu'on est capable ou pas capable, notre propre jugement, en fait, qui souvent est... Et d'ailleurs, pour moi, il était, je pense, même le plus dur, « je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, qui je suis pour rêver de ça ?»
Oui.
Et puis, la voix de la peur, voilà... Qu'est-ce qu'on va penser, je mérite, enfin, que c'est pas là où on m'attend, voilà.
Et vous n'étiez pas seule, vous étiez mère de famille, en plus.
Oui.
Donc
oui,
il y a aussi tout ça, vous entraînez du monde avec vous.
Ouais, puis on est dans un... Après, la vie a fait que j'ai fait ce métier, donc on est dans un carcan, enfin... Voilà, on se met dans des boîtes, comme on peut dire. Voilà, on rentre dans une boîte. C'était que moi, déjà par nature, j'ai toujours été un peu ronde. l'école, c'était pas mon truc. Les boîtes, j'ai toujours été celle qui disait tout ce que tout le monde pensait tout bas. Donc, je suis jamais vraiment rentrée dans le système. Mais malgré tout, je forçais le système. Et d'ailleurs, souvent, ce que je dis aux gens qui ont fait des burn-out, souvent, les gens qui font des burn-out, c'est ceux-là. C'est ceux qui forcent le système, qui rentrent coup, qui sont des ronds, qui veulent rentrer dans des carrés, voire dans des triangles. Et à force de faire ça, on s'abîme. Donc, moi, voilà, la vie a fait qu'à un moment donné, elle m'a imposé de sortir de ça. Et pour répondre à votre question, vous avez dit un mot très juste, le mot « liberté ». Un mot, c'est d'accepter d'être libre Et moi, c'est effectivement mon intuition profonde, qu'aujourd'hui j'écoute et je n'écoute qu'elle, qui me fait dire, ok, là t'y vas ou là t'y vas pas. Et mon étendard, c'est effectivement liberté. Et ça, c'est... Et donc oui, forcément, ben, les amis que j'avais, pour beaucoup, on s'est perdu de vue. Enfin, la vie a fait qu'on ne se comprend plus. Ce qui est chouette, par contre, c'est que j'ai découvert plein de nouvelles personnes comme moi.
Ouais.
Et j'ai découvert un autre monde. Et voilà. Et je pense qu'on est aussi dans une ère là où de plus en plus de personnes sont dans cette volonté de vouloir bouger les systèmes.
Je le pense aussi. Enfin.
Les organisations.
Enfin.
Les pouvoirs. Enfin.
Oui.
Enfin. Ouais, ouais.
Enfin, mais pourquoi? Parce que, bon, il reste encore beaucoup de boulot. Hein, parce que
oui.
J'avais une discussion cet après-midi avec l'un de mes amis à qui je disais combien... Je constatais que les méchants étaient encore bien présents et occupés la plupart des postes, vous voyez. C'est-à-dire, quand je dis les méchants, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées là où elles sont en écrasant les autres, en biaisant les choses, en mentant, en ayant même une incompétence affirmée, mais qui sont là quand même. Et je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, ce confinement là, cet espace-temps permet à pas mal d'entre nous de prendre le temps justement de penser à tout ça et de se dire est-ce que oui ou non on va continuer à accepter cela comme ça et peut-être arriver à bouger étant épris de liberté. Et la liberté passe aussi par ce type de combat. Alors pourquoi je parlais de cette période-là en ce moment? Parce qu'on évoquait justement avec cet ami cet après-midi ce moment où finalement beaucoup de gens sont en train de s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de consommer, de surconsommer. Vous voyez, je pense qu'il y a plein de gens qui prennent conscience de ça aujourd'hui, qui n'avaient pas encore pris conscience de ça, qui pensaient que... Voilà, tout un tas de personnes un peu allumées parler de la surconsommation, parler de la pollution trop, parler du végan. Ils mettaient tout un peu dans le même sac, vous voyez. Et au final, ce moment que nous vivons en ce moment fait que bien plein de gens le vivent moins mal qu'ils ne l'avaient prévu ce moment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que mal de gens pensent, arrivent à mettre à profit ce moment en se disant, mais finalement, la vie de dingue que je menais, là, je suis en train de... On m'oblige à... Finalement, parce qu'on est obligé, là, de marquer le pas. On est obligé de ne plus rien faire, pratiquement, en tout cas, d'être chez nous. Et ça entraîne une obligation de s'occuper, en tout cas, de faire de ce temps, de transformer ce temps en quelque chose de, si on peut le rendre positif, ce temps nourrissant, eh bien, voilà, c'est pas mal. Et j'ai lu, ici et là, sur Internet, tout un tas de réflexions de personnes qui prenaient conscience de leur état. Cet état dont vous parliez tout à l'heure, cet état de, lorsque vous étiez chasseuse de tête, que vous étiez en fait une femme de pouvoir, une femme finalement peut-être matérialiste aussi, parce que on a un peu parlé de l'argent dans tout ça, mais en étant chasseuse de tête, vous gagniez bien votre vie. Le fait d'arrêter tout à coup, en tout cas de faire un autre choix, c'était aussi prendre le risque de moins gagner d'argent, hein, d'être moins confort à ce niveau-là. Bon,
ouais.
Ce sont de grandes décisions quand on prend conscience qu'on peut être plus libre, mais que ça passe par ce qu'on pense être des sacrifices au début, mais qui finalement sont des cadeaux qu'on se fait.
Exactement. Ce soir, moi, une de mes filles, je veux parler du mot contentement.
Oui.
Et j'ai envie de s'endormir à 11 ans. Et je lui ai réfléchi à ce mot. Voilà. Dors avec ce mot et demain, on en parle. C'est quoi le contentement? Et c'est qu'en début d'interview, on parlait de l'idée de vivre l'instant présent. C'est vraiment ça. Je vis le moment et je me contente de là, de ce que j'ai là tout de suite.
Quel âge a-t-elle, votre fille?
Elle a 11 ans.
D'accord.
Ouais. Alors, mes enfants sont là-dedans 24 sur 24. Hein.
D'accord. Et elle, donc, elle vous a dit quoi? Elle vous a dit quoi?
Bah, en fait, elle s'est couchée en disant, bah, c'est par exemple s'endormir et avoir voilà un toit, un lit, être en bonne santé, avoir pu manger et avoir maman à côté de moi, voilà. C'est juste ça, le contentement, voilà. Et du moment présent. Donc, et encore, je l'invitais à prendre conscience de ça parce qu'elle était déjà en projection de oui, comment, qu'est-ce qu'on fera après, on ira à tel endroit, on fera ci, on fera ça, pourquoi l'autre il a ça, pourquoi il a ci. C'est vrai que quand on est enfant, souvent on est en comparaison
de
ce qu'ont les autres et de ce qu'on n'a pas. Et je disais, mais Alma, toi, tu vis dans une maison, t'as un jardin, pense à ceux qui sont en appartement. Et regarde-toi ce que t'as. Contente-toi de ce que t'as là, tout de suite. Voilà. Mmh. Et c'est un mot qu'on a un peu oublié, je pense.
Oui, complètement. Oui. On a surtout oublié tous ceux qui, en cette période, sont à 6, 7, dans des espaces très confinés, et pour qui cette période est beaucoup plus difficile. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience de plein de choses. En tout cas, j'espère. Mais de ce que je lis ici et là, j'ai cette impression. J'espère être dans le vrai. Mais bon, on verra.
Moi, j'ai la ferme conviction parce qu'on n'a pas... Enfin, je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir attendu ce virus pour avoir pris conscience. Il y a quand même beaucoup de gens qui œuvrent auprès des individus, dans les entreprises, auprès
à
titre associatif. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai créé une association et on œuvre vraiment à ça.
Oui, mais vous avez raison, Alexandra. Mais je pense que le positionnement et le travail de ces gens-là va prendre une autre dimension maintenant.
Ah oui. Oui.
Parce que parfois... vous parlez d'initiative, mais finalement isolée, le démarrage d'initiative dans des entreprises où on commence à prendre conscience que déléguer, faire confiance, s'occuper du bien-être de ses salariés peut avoir un impact sur le rendement que l'on désire, puisqu'on est tout de même dans une société de voilà où le rendement est quelque chose de très important. Bon, il y a toute une prise de conscience actuellement. Sur ces personnes qui menaient des combats qui semblaient être des combats un peu pas légers, c'est pas ce que je veux dire, mais c'était finalement minoritaire tout ça. Souhaitons que là ça serve.
Mais donc là, la prise de conscience, je pense qu'elle était pour beaucoup soit subie, en tout cas individuelle. Là, elle devient collective et si on prend de la hauteur, elle devient mondiale puisque là, tout le monde est en confinement. Il n'y a pas un endroit où on ne vit pas ça, on vit pas la même expérience. Donc là, elle a différents niveaux et c'est là où je pense que c'est super intéressant de regarder comme ça aussi. C'est-à-dire que là, on est tous, quel que soit notre niveau de vie, quel que soit notre métier, quel que soit, voilà, on est tous dans le même bateau là. Et ça nous renvoie à ça en fait. Voilà, ça nous renvoie à notre état d'homme, d'être humain. Et comme je disais au début, voilà, on n'a pas le contrôle. Et la nature, et on voit, moi je regarde pas les infos pour le coup. Hein. je fais pas partie de ceux qui regardent les infos. Je choisis de regarder les bonnes nouvelles. Et ce que ce virus apporte de positif, sans bien sûr, je ne sais pas le déni sur tous les malheurs que ça amène aussi, mais mon énergie, je l'aimais regarder ce que ça transforme en bien, et je constate quand même qu'au niveau de la planète, de l'environnement, des relations entre les gens, il y a quelque chose qui s'est fait, qui est en train de se faire. Donc j'espère, et vraiment j'ai la foi profonde qu'il y aura un avant, un après, ça ne peut pas être autrement.
Espérons-le, en tout cas, espérons-le. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de témoigner, de vous raconter ce soir sur la libre antenne d'Europe 1. Et puis, je vous dis à bientôt.
Merci Olivier, avec joie.
Au revoir Alexandra.
Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS.
Au cœur des époques, des civilisations, des conflits, des personnages et des révolutions. Plongez au cœur de l'histoire. Le podcast historique d'Europe 1.
Le 18 juillet 1880, à 3h...
Il était surnommé le pharaon bâtisseur, et c'est lui qui a fait...
Alexandre II, 62 ans, vêtu de l'uniforme...
Aujourd'hui, je vais vous raconter le destin d'un des plus célèbres souverains de... Replongez avec moi...
Au cœur de l'histoire. Des récits haletants, intrigants, captivants. Un voyage dans le temps pour éclairer notre présent.
Au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio, écrit et raconté par l'écrivain et journaliste Jean Descartes.
Disponible sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes habituelles. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h22 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct. On a beaucoup évoqué donc la prise de conscience en ce moment particulier, le contentement aussi dont parlait Alexandra. Il faut aller chercher ce contentement en ce moment lorsque voilà, on est toute la journée chez soi. Qu'est-ce que le contentement ? Tiens, voilà une question à laquelle vous pouvez réfléchir. Quel est le vôtre, vous, de contentement, chers amis ? La fille d'Alexandra disait, voilà, bien dormir, bien manger, être près de maman. Bon, c'est déjà pas mal, du haut de ses 11 ans. Et vous ? Réfléchissez à ça et n'hésitez pas à nous appeler au 3921. On accueille maintenant au 3921... Anne Bénédicte. Bonsoir Anne Bénédicte, j'avais du mal à vous retrouver.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Oh, aussi bien que possible, bon. On va dire. Pas très très facile quand même comme période.
Non, non.
C'est, Et j'ai pas encore l'expérience d'hypnose qui me permettrait de prendre le recul d'Alexandra.
Ouais, mais
c'est intéressant parce que je viens d'acheter une série de livres là-dessus après vous avoir entendu les uns les autres en parler et voilà, j'ai bien l'intention de m'y mettre bientôt.
D'accord. Ces états de... Vous savez, ces états de comment disait-elle, Alexandra ? Ces états de pas d'hypnose, mais de transe.
Peut-être aussi un certain recul et qui nous permet de vivre dans l'aujourd'hui. Que j'entendais beaucoup dans ce qu'elle nous a dit aussi.
Mmh, complètement.
Presque au moins autant que la transe.
Oui, oui, oui. Alors, dites-moi tout.
Alors, je vous dis tout. Je suis médecin pédiatre.
Oui.
J'aurais dû être à la retraite, mais je suis encore active. Et je ne pensais pas terminer ma carrière avec un épisode comme celui que nous vivons en ce moment. Et à propos, il y a une première chose que je voudrais faire, c'est de lancer un appel à toutes les mamans et à tous les papas, pour qu'ils n'aillent pas faire leurs courses avec leurs enfants. Je trouve ça vraiment pas raisonnable, ils ne s'en rendent pas compte. J'ai vu encore trop, enfin toutes les dernières fois, même si elles ne sont pas très nombreuses, où j'ai été faire des courses, j'ai vu des petits dans des caddies, j'ai vu des enfants tenus à la main, et pas en début de matinée, en fin d'après-midi, c'est-à-dire au moment où il y a le plus de microbes dans les grandes surfaces. Alors, s'ils ne peuvent pas faire autrement, au moins... qu'ils aillent dans des petits magasins ou qu'ils y aillent le matin tôt quand il y a moins de microbes dans l'air.
Alors, je suis très heureux de vous entendre dire ça parce que il est vrai qu'on... Bon, cette période, elle est difficile. Hein. Elle est difficile à vivre pour tout le monde. On comprend aussi que les bambins aient envie de se dégourdir les jambes aussi. Et bien évidemment qu'on enfermé toute la journée, ça n'est pas facile hein, pour les parents. Mais... je voudrais savoir si on fait prendre un risque à ses enfants lorsqu'on les fait sortir. En tout cas, quel risque on prend, en fait, par rapport à ce virus ?
Quand on les fait sortir pour aller faire les courses dans un hypermarché, oui, on leur fait prendre un risque. D'abord parce qu'ils touchent à tout, ils ont envie de toucher à tout. Or, on nous a bien expliqué que le microbe, il persistait un certain temps hein, sur tout ce qu'on touche. Ensuite parce que les enfants ils font pas attention autant que nous et puis on leur fait prendre le risque de respirer les microbes des autres et puis on fait prendre aux autres le risque parce que c'est pareil, les petits ils vont pas mettre ni leurs mains ni leurs coudes devant eux quand ils toussent, mais on leur fait prendre un vrai risque. Je sais pas si vous avez entendu les nouvelles qui ont été diffusées il y a 24 heures sur ces deux petits enfants aux États-Unis, un qui est décédé, qui avait moins d'un an.
Ah oui, j'ai entendu cela, ouais.
Et une petite fille de 4 mois dont il montrait la photo qui sortait tout juste de... Enfin, qui était encore en soins intensifs, qui sortait tout juste de réa et qui avait été intubée ventilée. Donc, on a trop entendu que c'était une maladie qui touchait pas les enfants. Ensuite, on nous a dit, ah oui, mais elle les touche, mais elle est pas grave. C'est peut-être souvent vrai, mais ça peut aussi être grave. Et je crois que c'est important d'en prendre conscience.
Oui, parce que depuis le début, on ne parle pas beaucoup des enfants. Hein.
Alors, c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui le font de façon inapparente, statistiquement, par rapport aux adultes, mais il y a quand même des formes graves, donc il ne faut pas prendre ce risque.
Vous, aujourd'hui, vous continuez, vous m'avez dit, vous n'êtes pas à la retraite, ça veut dire que vous recevez des enfants encore aujourd'hui ou vous allez à domicile ? Comment ça se passe ?
Je les reçois, parce que finalement, les enfants, beaucoup plus que les adultes, même quand ils sont malades, ils peuvent être mis dans une voiture et amenés, tandis qu'un adulte, il ne va pas conduire s'il a 42 fièvres. Donc, ça se passe au cabinet, oui.
D'accord. Et donc, ces comportements, ils sont irresponsables pour vous, le fait d'emmener les enfants dans les grandes surfaces? Comment vous les décrivez?
Oui, carrément. Enfin, moi, ça fait des années que je dis qu'en hiver, au moment des bronchiolites, il faut essayer de ne pas les emmener dans les lieux où il y a beaucoup de monde. Et puis, si on ne peut pas faire autrement, parce que c'est bien gentil de dire qu'on ne peut pas, mais il y a des parents qui ne peuvent pas faire autrement. Donc si on ne peut pas faire autrement, il faut se débrouiller pour y aller aux heures où c'est le moins dangereux. Mais avec ce virus qui est encore beaucoup plus contagieux que les virus de grippe habituels, je crois qu'il faut prendre encore plus de précautions.
Quelles précautions ? Les
emmener se promener au grand air, oui. Les emmener se promener pour aller faire les courses, non.
D'accord.
Je repense à ce couple que j'ai vu il y a une petite quinzaine de jours, maintenant pas tout à fait. Enfin, c'était déjà après le confinement. Ils étaient à deux, plus un enfant dans un caddie. Et quand je leur ai suggéré que peut-être c'était quand même pas la meilleure place pour leur enfant, ça les a pas beaucoup affectés. Ils ont continué tranquillement leur course, mais vraiment tranquillement. Hein. Et ils ont pris plus de temps dans le magasin que moi, ça c'est sûr. Alors qu'il y en aurait un qui aurait pu, repartir à la voiture avec l'enfant et puis que l'autre continue les courses. C'était un peu de bon sens pour cet enfant. Alors cet enfant, c'est à risque que lui, il soit malade. C'est à risque qu'il contamine les autres. C'est à risque qu'il contamine les grands-parents. C'est pas sérieux.
Mmh. Qu'en est-il aujourd'hui, en fait, du virus par rapport à ces jeunes enfants ? Est-ce que le risque majeur, c'est qu'ils soient contaminés mais qu'ils ne développent pas la maladie et qu'ils deviennent contaminants au maximum ?
Alors, c'est statistiquement le risque le plus important. Statistiquement, oui.
D'accord. Donc, finalement, les enfants sont au même régime que les adultes, en tout cas, devraient l'être.
Ils devraient l'être, oui. Alors, on sait bien que c'est pas possible, c'est pas facile, mais si nous, les adultes qui les entourons, on fait pas quelque chose, c'est pas eux qui le font tout seuls, ils peuvent pas.
C'est clair, c'est clair. Vous êtes en région parisienne ou vous êtes...
Oui, en grande banlieue.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en fin de journée, hein. Beaucoup de...
Oui, mais il y a quand même beaucoup aussi qui travaillent pas en ce moment.
Oui, oui.
Et puis il existe le drive, et puis il existe la boulangerie et l'épicerie d'à côté.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher son pain et ses fruits dans la grande surface, on peut aller à l'épicerie d'à côté. Il y a quand même une concentration humaine beaucoup moins grande. Il va y avoir beaucoup moins de gens qui seront passés dans la journée, donc il y a beaucoup moins de risques.
Mmh. Complètement. Vous...
Voilà, alors, si certains parents qui n'en avaient pas conscience peuvent m'avoir entendu ce soir, ça sera formidable.
Ah ouais.
Je crois.
Je pense que certains vous écoutent et auront pris conscience de tout ça. Parce que, j'ai senti que on protégeait les enfants, mais pas, voilà, il n'y avait pas une prise de conscience autour des enfants et qu'il a fallu, comme vous le dites, déjà au niveau des adolescents, il y a une petite qui a, malheureusement est décédée il y a quelques jours.
Oui, qui venait de notre région d'ailleurs.
Voilà, il y a eu une prise de conscience par rapport aux adolescents, parce que beaucoup d'adolescents, finalement, ne prenaient pas conscience que ça pouvait leur arriver aussi, même si ce cas reste un cas isolé, mais c'est la preuve que, voilà...
Peut-être moins isolé que ce qu'on le croit. En Italie, il y a eu un jeune garçon de 13 ans, Et puis il y en a qui sont en service de réanimation, mais ça on le dit pas beaucoup parce qu'il faut pas non plus paniquer les gens. Mais comme on les panique pas, du coup on les aide pas à se conscientiser.
C'est clair, c'est clair.
C'est le reproche. Enfin, quand j'avais essayé de prendre contact la première fois avec vous, c'était aussi beaucoup parce que j'étais très en colère la semaine dernière. J'étais très en colère parce que justement on nous a pas du tout aidé à nous conscientiser. Même nous, les médecins, on nous a répété jusqu'à il y a 15 jours que c'était une grippette, que c'était pas si grave, que
qui vous
que
disait
c'était
ça
pas si contagieux,
qui vous disait
que c'était
ça
pas grave.
Qui vous disait
même
ça
nous. Pardon ?
Mais qui vous disait ça ?
J'allais dire presque nos ministres les uns après les autres.
Mm-hmm.
Ils ne nous ont pas du tout fait passer, même pas par nos pairs, par nos conseils de l'ordre et autres, ils ne nous ont pas du tout fait passer qu'il fallait qu'on se prépare à quelque chose de plus grave.
Et avouez que c'est quand même incroyable, non ?
Ben oui, 416 morts en une journée, c'est pas une grippette.
Non, ça n'est pas une grippette.
Justement... Vous voyez, moi, je me souviens bien, il y a 3 semaines, je parlais encore du paranovirus. Parce que vraiment, j'avais l'impression que les gens, ils étaient paranoïaques devant ce virus. Mais que, bon, il ne fallait pas paniquer comme ça, quoi.
Bah, vous étiez comme certains médecins qu'on a vus à la télévision, hein, médecins connus, qui parlaient de grippette.
Mais le problème, c'était pas comme certains médecins qui parlaient de grippette. J'étais influencée par ces médecins qui parlaient de grippette, qui sont censés être le conseil des sages autour de notre président. Et le conseil des sages autour de notre président, il aurait pu peut-être au moins nous prévenir, nous, que peut-être il y avait un risque un peu plus élevé quand même.
Mais est-ce que ce conseil avait bien évalué la gravité de tout ça ? J'ai l'impression,
c'est
moi,
ça,
que...
le problème.
J'ai l'impression qu'on nage vraiment... Il y avait une marge... En tout cas, une zone sombre, une zone grise, là, j'ai l'impression que pas grand monde n'a compris dès le début que c'était aussi grave que ça.
Oui.
C'est la perception, en tout cas, que moi, j'en ai en tant que, voilà, que simple citoyen. Les médecins qu'on a vus au début parler d'une simple grippette, je pense que ça n'était pas pour se faire mousser ou pour faire les monsieur je sais tout, comme je l'ai lu beaucoup sur Internet, mais parce que c'était annoncé comme ça, mais ce qui s'est passé en Chine n'était pas une simple grippette pourtant.
Non, et puis ils ont quand même eu quelques médecins qui ont essayé de les alerter et qu'ils n'ont pas voulu entendre.
Mais je crois que la majorité n'a pas voulu entendre, surtout.
Oui, mais enfin, je veux dire que ceux qui étaient à la tête, ceux qui prenaient les décisions, ceux qui conseillaient le président... Ça aurait été bien qu'ils aient quand même les oreilles un peu ouvertes sur ce que d'aucuns essayaient de leur dire.
Oui, complètement.
C'est ça que je trouve dommage. Et ils ne les ont toujours pas, les oreilles ouvertes. C'est ça que je trouve dommage.
Bah, un ami pharmacien me disait, pas plus tard qu'hier, qu'il était, obligé de rationner les masques pour les médecins généralistes,
oui,
et tous les praticiens.
Sûr. Bien sûr.
On nous en avait promis
50
jours.
La première semaine. J'en ai eu 10 sur 50.
Oui.
Et 10 masques qui sont des masques qui ne nous protègent pas.
Voilà, qui ne sont pas des masques. En plus, il me les a montrés.
Qui ne nous protègent pas. Ouais. Alors là, maintenant, ils ont calculé 18 par semaine. Est-ce que vous savez pourquoi 18 ?
Non. Dites-moi.
Eh ben 18 parce qu'un médecin, normalement, un masque, c'est 4 heures. Un médecin est susceptible de faire un peu plus que 2 fois 4 heures dans sa journée. Donc on va lui donner 3 masques par journée. Et puis un médecin, il est susceptible de travailler 6 jours par semaine, alors 6 fois 3, 18.
D'accord, mais aujourd'hui...
Ça, c'est les calculs des ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les ordinateurs travailler à leur place.
Mmh. Et puis alors, dites-moi si je me trompe.
Quand on voit, par exemple, un des médecins du SAMU 93 qui parlait à 20h sur une autre radio et qui disait, mais on envoie des malades graves, on les envoie dans le train, on les envoie dans les avions, on les envoie dans les hélicoptères, ça nécessite énormément de personnel avec eux, et on a 3, 4, 5 hôpitaux à Paris, en région parisienne, qui ont été fermés il n'y a pas longtemps, qui ont encore toutes les infrastructures, il suffirait de les rééquiper. C'est quand même énorme que nos responsables n'entendent pas ça.
Je pense que nos responsables, malheureusement...
Ils ne veulent pas entendre.
Bah, et puis ils vont devoir répondre de tout ça après, parce qu'il y a une perception des soignants et des soignants libéraux, hein, comme vous, et qui sont aussi...
Hospitaliers aussi, hein.
Vous êtes hospitaliers aussi, mais ce que
je veux dire... Non, les hospitaliers aussi, ils ont cette confiance encore plus.
Oui, on avait un jeune interne de l'hôpital de la Timone la semaine dernière qui évoquait la même chose que vous, en étant, pour le coup, dans le service, service qui traitait le coronavirus en direct, et qui disait que même là, il n'était pas protégé. Donc il est certain que ça pose question.
C'est là où la semaine dernière j'étais très 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 en colère, parce que quand on voit qu'une ancienne ministre nous dit « Ah mais moi en janvier je savais, j'avais deviné, j'avais dit que les élections municipales ça se passerait mal », mais même si elle n'avait pas le courage de dépasser son premier ministre pour commander des masques en nombre, elle pouvait demander au moins aux pharmaciens de rationner. Pendant ce temps-là, il y a 4 semaines encore, il y a des parents qui m'ont expliqué dans une grande pharmacie qui fait un peu libre service de ma région, ils ont vu des personnes sortir avec des chariots dans lesquels il y avait des boîtes, des cartons entiers de masques et ensuite de gel. Si ça avait été un petit peu rationné à ce moment-là, il y en aurait eu pour les soignants, il y en aurait pour les policiers, il y en aurait pour les caissières.
Complètement.
Ils sont passés où, tous ces masques ? Au marché noir ?
Oui, je n'en ai aucune idée. En tout cas, quand vous regardez sur Internet, vous en trouvez des masques, hein, je vous le dis. Et c'est ça qui est très étonnant, en fait, puisque Jean-François, qui est le réalisateur de cette émission, nous montrait qu'on trouvait toute une série de masques sur Internet, et ça paraît très étonnant, en fait. Bon, ça n'est qu'un détail, hein, mais c'est un détail qui veut dire beaucoup.
Il y en a qui ont sorti venir le vent, hein, je vous dis, il y en a qui ont acheté des cartons entiers.
Oui.
C'est pas étonnant que maintenant ils trouvent à les rendre.
Moi, je vais vous dire ce qui m'a beaucoup saisi aujourd'hui. Ce sont les images de la province de Wuhan en Chine, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais tout le monde aura compris, de là d'où est parti le virus. Hein. Et on est en sortie de confinement, et tous les civils que l'on voyait faire la queue pour aller dans les commerces, se balader dans la rue, tous avaient des masques.
Donc certains viennent de France,
là,
d'ailleurs.
Vous êtes beaucoup plus au courant que moi, Anne-Bénédicte, puisque vous êtes...
Non, je suis au courant comme vous, par les médias, les réseaux sociaux, beaucoup plus que par... C'est le blackout total. Bah,
c'est-à-dire que vous êtes médecin. Donc, oui. Si vous voulez, les premiers qui devraient avoir droit à ces masques sont quand même ceux qui sont en première ligne. Hein. Et là, on parle de ces gens-là. Même ces gens-là n'ont pas de masque. Alors, tout ça pour vous dire que je me suis dit aujourd'hui qu'avant que même nous, les citoyens lambda, ayons la capacité de se protéger, hein, et de protéger les autres, parce que ça n'est pas dans un état d'esprit nombriliste, hein, que je dis ça, mais quand
je
vois...
C'est sûr que quand il n'y aura plus de médecins pour soigner...
Non, mais c'est surtout, je veux dire, j'ai l'impression que...
Quand tous les médecins seront atteints, il n'y aura plus personne pour soigner les autres.
Et puis tant qu'on ne protège pas... Voilà, ces masques, on dirait qu'ils arrivent au compte-gouttes. Si vous me dites qu'on vous en donne 18 par semaine, c'est qu'il y a...
Les pharmaciens, on leur donne pour les pharmaciens, sauf que dans une pharmacie, il n'y a pas que les pharmaciens en titre, il y a un certain nombre de personnes qui les aident. Ils n'ont pas de masques, ils ne sont pas comptés.
Alors moi, partout où je suis allé, tout le monde était équipé, hein.
Oui, parce que les pharmaciens se sont débrouillés, parce qu'il y a des médecins qui en avaient et qui leur en ont donné. Mais c'est quand même affolant de voir que dans ce qu'ils auraient compté, comptabilisé et donné, on n'a pas compté tout leur personnel.
Oui, non, c'est dingue.
Moi, je sais que je suis protégée parce que j'ai des masques qui sont périmés, mais qui sont encore valables et qui datent de Madame Bachelot. Merci Madame Bachelot, on s'est assez moqué d'elle quand elle en a fait trop. Maintenant, j'ai envie de lui dire merci.
On ne s'est pas assez moqué d'elle.
Moi aussi, j'en ai fait partie de ceux qui ont dit qu'elle avait fait trop.
On a pourri Roselyne Bachelot à l'époque, même pour le fait qu'elle ait fait des réserves d'un vaccin qui n'a au final pas été utilisé.
Et puis on se rend compte maintenant de ce que ça aurait été s'il y avait eu la même épidémie.
Exactement. Et on se rend compte maintenant que ce n'était pas une ineptie ce qu'a fait cette ministre à l'époque. Mais bon... Non, ce qui est le plus embêtant, c'est pour vous, en fait, pour vous, médecins, ce manque de masques qui continue en plus, qui continue. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas protégés aujourd'hui et qui font, voilà, qui sont en première ligne comme vous.
Et encore,
ça que j'allais vous poser comme question en fait. 18 masques, bon, mettons. Mais lorsque vous allez chez un...
Si un enfant me touche dessus,
voilà, il est mort, le
masque. Mon masque, il est plus valable. 4 heures, il faut que je le retire.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu comme idée géniale? Ils nous ont dit, vous avez qu'à ne plus examiner la gorge de vos patients.
D'accord. Pour le coronavirus, donc, on ne regarde plus la gorge.
Oui, surtout pour des enfants qui ne peuvent pas nous décrire ce qu'ils ont comme impression dans la gorge.
Ça paraît complètement, ouais.
Et puis, quand on regarde une gorge, on est à quelques centimètres de la bouche et du visage.
Bien sûr. Et c'est une maladie où on touche beaucoup.
On n'a pas de lunettes, on n'a rien.
On touche beaucoup lorsqu'on est atteint.
Et puis, quand vous allez regarder la gorge d'un enfant, j'allais dire à la limite, vous le faites tousser, même s'il n'avait pas envie de tousser.
Ouais, ouais. Vous, pour l'instant, ça va? Vous n'avez pas... Vous n'avez,
Alors, moi, j'ai en fin de semaine dernière, finalement, enfin, dans le courant de la semaine dernière, je me suis vraiment beaucoup équipée. Alors d'abord, j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai travaillé dans une maternité jusqu'à décembre dernier, et pour des tas de raisons où ça m'a d'ailleurs pas vraiment servi, j'avais ramené mes pyjamas au fur et à mesure que je les utilisais à la maternité, plutôt que de les jeter. C'est des pyjamas à usage unique, donc plutôt que de les jeter, je les rapportais.
D'accord.
En l'occurrence, pour à l'époque, c'était, mais j'en ai rapporté 40 fois trop, mais je les rapportais entre autres pour pouvoir aller m'occuper de mes chats, parce que j'en ai 14, et que rentrer dans une pièce et puis avoir des vêtements ensuite le lendemain plein de poils de chat, pour les enfants, ça me semblait pas bien. Donc j'en avais rapporté pour ça. Ceci étant, j'en ai pas utilisé largement, pas le cinquième de ce que j'ai rapporté. Et puis les gels hydroalcooliques, quand on est dans un milieu hospitalier, on n'a pas le droit de les garder plus qu'un mois, même quand ils n'ont quasiment pas servi. Donc, ma collègue et moi, régulièrement, on se faisait donner les fins de flacons, avec des flacons parfois aux trois quarts pleins ou aux quatre cinquièmes pleins, quand arrivait le moment du changement. Et je ne sais pas pourquoi, le dernier mois, j'en ai pris un peu plus. Mais alors vraiment, je ne sais pas pourquoi. Et donc, de ce côté-là, j'avais des tenues et du gel hydroalcoolique. J'ai retrouvé les masques de Madame Bachelot. Et puis, je me suis dit, comment on pourrait faire d'autre pour se protéger? Toujours la même chose, les examens de gorge des petits-enfants. Et j'ai eu une idée, c'était de prendre une visière en plexiglas de masque de moto.
Oui, alors
là,
ouais,
ça,
ouais,
je suis
ouais.
complètement à l'abri, les yeux, le nez, tout.
Ouais, c'est super.
Donc,
super.
Quand j'examine un enfant atteint, pas de problème.
Et comment vous la faites tenir, la visière?
Bricolage. Hein.
Bricolage, oui.
Ouais. Bricolage. Bricolage. Je voulais avoir un masque, et puis ça c'est... qui était amusant en plus, que quelqu'un vendait sur le Bon Coin, qui était un masque de grand enfant, mais un peu décoré. Je m'étais dit que ça serait rigolo pour mes petits bouts, et puis finalement ça s'est pas fait. Mais bon, j'ai bricolé quelque chose. Si c'est pour le faire tenir juste le temps de regarder une gorge et un nez, c'est pas encore trop méchant. Mais voilà. Alors, la semaine dernière, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui vendait des tabliers à usage unique, un peu imperméabilisés. Enfin bref, finalement, ayant quand même aussi à une époque beaucoup travaillé en réanimation, je suis équipée.
Oui, mais enfin, c'est systémisé quand même, Anne-Bénédicte. C'est quand même, vous êtes inventive, vous êtes très créative.
Et il faut bien essayer quand on ne nous donne rien.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, coup de chance aussi, mais il y a beaucoup de coups de chance, vous savez, mais je sais pas si le hasard, c'est pas du hasard, quoi, pour moi. Mais j'étais passée, le dimanche avant le confinement, j'étais passée dans un magasin, et ils vendaient à ce moment-là un peu en promotion des gants pour faire le ménage. Et j'en avais pris 2 boîtes. Pourquoi j'en ai pas pris plus, d'ailleurs, je sais pas, mais j'en avais pris 2 boîtes. Donc ça me fait un peu d'avance quand même. Voilà, c'est un peu une série de coups de chance. Mais voilà, est-ce qu'il faut compter sur la chance pour pouvoir travailler comme médecin?
Et en même temps,
alors c'est très bizarre, parce que la semaine dernière, j'étais dans la colère, et puis cette semaine, et il y a plusieurs raisons à ça, cette semaine, j'ai l'impression d'être complètement sonnée.
C'est-à-dire?
Je suis hébétée, si vous préférez, devant tout ce qui se passe, devant les nouvelles, devant cette évolution, devant ce qui n'a pas été fait, devant devant le travail qu'on demande à certains par série de je sais pas combien d'heures, devant... Et à côté de ça, moi j'ai presque plus rien à faire. La semaine dernière, j'ai pas arrêté de travailler, et puis là les gens, on a l'impression qu'ils se terrent chez eux, ils ont peur, ils bougent plus. Même pour ce qui doit être fait pour leurs enfants, on a l'impression... Avant, j'avais tendance de temps en temps à râler parce que certains parents, enfin, ça dépend lesquels, si vous voulez, quand c'est des parents inquiets, faut pas râler. Mais enfin, quand un grand garçon de 12 ans vous est amené 4 fois dans l'hiver pour un rhume, et où 4 fois vous dites, ben oui, mais pour le rhume, il y a ça et ça et ça à faire et il n'y a rien de plus. La quatrième fois, vous trouvez quand même que ça fait beaucoup. Et ben là, les petits, pour les rhumes, ils viennent plus. Les petits, pour des fièvres, ah ben il a la fièvre depuis 8 jours, est-ce que je pourrais vous voir?
Et pourquoi en fait? Parce que les gens ont peur de sortir?
Ils ont peur, ils ont peur. Puis alors je pense que les cabinets médicaux,
ça fait peur.
Représentent un endroit qui fait peur.
Ben, la salle d'attente est quelque chose.
Alors la salle d'attente
qui fait peur.
Personnellement, j'ai une salle d'attente où, à part parfois en fin de journée, depuis 6 mois, 1 an, parce que malgré tout je suis plus fatiguée, j'arrive moins à aller vite en fin de journée, mais ils le savent, dans ma salle d'attente en général on attend...
Oui,
si
mais
on attend
reste,
des minutes, un quart d'heure,
ça reste
c'est
tout de même une salle d'attente d'un cabinet médical et donc ça fait peur.
Oui,
ouais.
C'est vrai. Mm-hmm. Mais bon, alors c'est vrai que je leur explique que je la désinfecte 3 ou 4 fois par demi-journée, que dès qu'il y a un enfant qui a toussé, je remets du désinfectant. Que... Mais voilà, les gens, ils ont peur, mais je leur en veux pas, je les comprends. Mais ils ont peur, ils bougent plus, alors qu'on nous a dit, mais surtout, il faut continuer à vacciner les enfants, ce ne serait pas la peine qu'on ait une épidémie d'autre chose à la fin de cette épidémie, parce que les enfants n'auront plus été vaccinés. Vous voyez ?
Oui, oui.
Ça serait quand même un monde qu'on se retrouve avec une épidémie de coqueluche parce que les enfants n'ont pas été vaccinés.
Mais c'est pour ça que vous dites...
Je comprends qu'ils aient peur, je comprends qu'ils aient peur, qu'ils décalent leur rendez-vous en se disant le mois prochain, il y aura moins de microbes. Mais du coup, moi, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que je ferme mon cabinet un jour sur deux pour aller aider à l'hôpital? Mais si je vais aider à l'hôpital, alors je serai encore plus à risque d'être contaminante pour mes patients. Je ne sais plus. Je suis dans une position où je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'ai l'impression d'être complètement spectatrice de ce qui se passe.
Bah, c'est-à-dire que c'est une situation particulière aussi, Anne-Bénédicte. Donc, vous êtes sans doute aussi confrontée à... comment vous dire, l'état d'esprit ambiant hein, de ces personnes que vous décrivez qui ont peur de sortir, donc qui ne font peut-être pas ce qu'il faut, mais c'est vrai que c'est une situation.
Ils
font ce qu'ils peuvent parce que c'est une situation totalement inédite. Donc,
Et en même temps, je sais que ma place, elle est utile. L'autre jour, j'ai vu un petit garçon de 9 ans qui arrivait depuis très peu de temps de son pays, donc pas de sécurité sociale, pas de ceci, un peu perdu, un peu avec son, qui était là avec son papa qui était en France depuis plus longtemps. Et son papa me l'a amené un peu en urgence. Cet enfant, je l'ai envoyé à l'hôpital. Il a été pris en charge dans l'heure qui suivait. Il a été opéré de l'appendicite à son arrivée. Donc, j'aurais pas été là. Les médecins, les chirurgiens ont dit au papa, il était temps, son appendice était en train d'éclater. Donc, il y a quand même une utilité à ce qu'il y ait encore des gens pour discerner ça en ville. Alors, si on n'est plus là, ça sera qui? Donc, si je vais à l'hôpital, il y a qui à ma place? Donc, c'est un vrai problème là que je me pose depuis 2 jours. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'hôpital les aider, je reste ici, je ne sais plus.
Et ça, c'est pas moi qui
bah oui,
peux
je sais
vous
bien
dire
que c'est pas
non, là, pour le
non,
coup.
Non,
là.
Mais je sais bien. Mais c'est, vous voyez, on a tout un tas de problèmes existentiels là, qui se posent là. Parce que, voilà, puis bon, malgré tout, si je suis censée être déjà à la retraite, c'est que je suis plus non plus tout à fait toute jeune. Donc, je serai moins vaillante à l'hôpital. J'aurai plus de risques aussi que je vais prendre. Si c'est pour lâcher en cours de route parce que je serai complètement épuisée, c'est pas une solution. Je sais pas. Je crois qu'on vit dans vraiment une époque difficile et inédite, c'est vrai. Mais ce qui m'a aussi beaucoup, en reprenant finalement un petit peu quand Natacha m'a appelé tout à l'heure, je me suis rendu compte à quel point mon attitude avait changé par rapport à la semaine dernière.
Oui, par rapport au début même, je suppose.
Il y a 15 jours, j'y croyais pas assez. D'ailleurs, il y a sûrement des enfants, rétrospectivement, que j'ai vus qui étaient possiblement atteints. Mmh. Bon, depuis, j'en ai vu 2 sûrs. et deux probables. Il est petit, hein. Il y en a un dans un de mes sûrs, il a moins de 2 ans.
Ah oui, d'accord, ouais. Et dans ces cas-là, vous le suivez toujours, donc.
Ah ben, c'est-à-dire que je l'ai vu au moins 2 fois ici, et puis ensuite je l'ai suivi par téléphone tous les 2 jours.
D'accord. Et comment vont les parents ?
Bien.
Bien aussi, d'accord.
Bien. Mm-hmm. Oui.
Donc, ce qui ne veut pas dire qu'obligatoirement, si votre enfant l'attrape, qu'il va être.
Non. Et j'en ai une autre de 9 ans qui l'a eu aussi avec un essoufflement. Comme ils décrivent chez les adultes, elle n'était pas capable de prendre sa respiration et de compter jusqu'à 3 sans tousser. Et le reste de sa famille, y compris son père qui a été testé, était négatif. Mmh. Alors, c'est une famille très raisonnable. Elle avait son masque en permanence sur le nez et tout. Mais non, on peut avoir un enfant atteint et pas forcément le reste de la famille. Alors, la maman n'a pas été testée, c'est vrai. Le papa, pour d'autres raisons, a été testé. Il est négatif.
J'ai l'impression qu'il n'y a, il n'y a aucune règle avec ce
aucune.
Virus.
Aucune.
Ce qui est particulièrement difficile donc pour tout le monde.
Oui.
Là, dans les jours prochains, vous allez appeler l'hôpital, en fait. Vous disiez, vous posez la question par rapport à ça.
Je ne sais pas. Peut-être pour leur proposer de, au contraire, de voir un peu le tout venant et les libérer, ceux qui sont plus dans l'urgence récente, enfin qui ont été formés plus récemment à tout ce qui est urgence, essayer de les décharger un petit peu de la consultation tout venant qui est à l'hôpital, s'ils en ont encore. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je sais que si je fais ça, je vais déclencher la panique chez mes patients.
Oui, et quel est l'état de l'hôpital de votre secteur aussi ? Est-ce que peut-être...
Je pense qu'ils sont... il y en a deux et ils sont aussi débordés l'un que l'autre. Ouais. L'année dernière, en hiver, ils étaient débordés. Il y avait 6-8 heures d'attente, 10 heures, au moment des bronchiolites. Donc je n'ose pas imaginer ce que ça doit être en ce moment.
Vous avez des amis qui travaillent dans cet hôpital ou des connaissances ?
Des connaissances, elles commencent à être lointaines. Disons qu'il y en a un ou deux que je connais parce qu'on a échangé à propos de nouveau-nés que je leur ai envoyés. Mais voilà, c'est pas, je les connais plus. C'est toute l'équipe de ceux que je connaissais, ils sont les uns après les autres partis à la retraite, en fait.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une situation qui est... comme vous dites, qui peut rendre hébété lorsqu'on est soignant.
Sonné, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de massue sur la tête, là.
Ouais. Vous êtes inquiète, en fait, sur l'évolution.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est vrai qu'on a, on n'a pas encore passé le plus dur. Et puis je pense qu'on manque d'imagination pour plein de choses. On manque d'imagination, alors je reprends ce que disait le docteur Prudhomme en disant pourquoi est-ce qu'on rouvre pas les hôpitaux qui ont été fermés récemment à Paris avec des lits de réanimation qui demandent juste à être rééquipés. Et puis on manque d'imagination pour plein d'autres choses. Regardez, on a raison. On n'a plus le droit d'aller se promener dans les parcs, on n'a plus le droit d'aller se promener sur les quais. On a raison, on a tort. Parce qu'il y a des enfants pendant ce temps-là qui sont en appartement confinés, qu'on aurait des solutions. On a su proposer aux gens de s'inscrire pour aller voir des expositions et d'être pas plus que X à la fois pour voir une exposition. Pourquoi on n'est pas capable de prendre les mêmes logiciels et de proposer aux gens de s'inscrire pour aller emmener leurs enfants se promener un peu au parc?
Ça me semble compliqué, moi, tout simplement. Je vais vous dire, pourquoi ça me semble compliqué. Parce que, tout simplement, si on en autorise certains, ça va entraîner d'autres qui n'auront pas l'autorisation.
Mais ce n'est pas les autoriser, c'est leur demander de s'inscrire. De la même manière que quand on voulait aller voir une exposition au Louvre, on s'inscrivait. Quand on voulait aller voir l'exposition sur Léonard de Vinci, on s'inscrivait. On avait un horaire pour y aller.
Mais ça, aujourd'hui, ça n'est soumis à personne, cette solution. C'est fini, le Louvre, tout ça, tout est fermé.
Oui, mais on peut prendre le même logiciel de répartition des gens et faire ça pour que les gosses qui sont certains enfermés puissent avoir le droit de respirer. Vous ouvrez qu'une seule entrée du parc et c'est surveillé. Oui. Vous avez votre papier pour rentrer, vous rentrez. Vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas. Mmh. Et c'est des gosses qui pourraient courir un peu, imaginez-les dans des appartements où le couloir fait maximum, je sais pas, 10 mètres de long.
Non, mais c'est clair qu'on pourrait sûrement faire ça, mais j'ai l'impression que la préoccupation des politiques et des gens qui sont en charge de ce confinement, ce type de décision est bien loin de leurs préoccupations, si vous voulez.
C'est oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez 30% d'augmentation de la maltraitance des enfants. C'est les chiffres que vous avez donnés encore tout à l'heure aux nouvelles.
Complètement, oui.
Voilà, des adultes et des enfants qui sortent plus, qui sont confinés, qui les enfants crient, les parents tapent.
Ouais.
Je trouve qu'on manque quand même encore d'imagination. Bon, espérons qu'au moins tout ça nous aidera à être plus imaginatifs une prochaine fois, mais...
Hugo, l'interne de l'hôpital de la Timone, Marseille,
d'accord,
qui nous appelait la semaine dernière... nous disait que de cette crise, en fait, émergerait une réorganisation totale du système soignant, en fait.
Oui, je me souviens d'avoir entendu ça.
Parce que c'est tellement... il y a des choses tellement lamentables qui se passent, en termes, on l'a évoqué largement avec vous, Anne-Bénédicte, qu'on va bien être obligé, une fois que tout ça sera passé... de passer à la caisse pour ceux qui auront fait des erreurs quand même qui pouvaient être évitées.
En espérant qu'ils ne nous diront pas responsable mais pas coupable.
Pardon ?
En espérant qu'ils ne vont pas nous dire responsable mais pas coupable.
Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué.
Ça risque d'être à nouveau le refrain qu'on va entendre. C'est vrai que c'est peut-être pas complètement faux, mais quand même.
Non, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même une situation totalement inédite. Mais quoi qu'il arrive, la France étant ce qu'elle est, en tout cas la représentation qu'on en a, fait que nos soignants, nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, tous autant que vous êtes, n'aient pas de masque, n'aient pas de protection, c'est quelque chose qui est insupportable. En tout cas, Anne-Bénédicte, je vais être obligée de vous quitter parce que l'info arrive sur Europe 1. Je vous embrasse, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me tenir au courant pour les décisions que vous prendrez dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à m'appeler.
Pas de souci. Et puis prenez soin de vous et un grand coucou aussi à Natacha avec lequel on a bien discuté tout à l'heure.
C'est entendu. Bonsoir Anne-Bénédicte.
Merci, bonsoir.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Europe 1.
Restez informés, ne pas se couper du monde, on est d'accord, c'est essentiel.
Émilie Mazoyer.
Mais on peut toujours écouter de la bonne musique.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime.
Tous nos gestes barrières sont respectés. Dans musique, le coronavirus ne passera pas par vos oreilles. Rendez-vous tous les soirs en direct de mon salon pour 2 heures de musique. On prend des nouvelles de vos artistes préférés tous les soirs au téléphone et les auditeurs programmateurs sont là pour partager avec vous leurs chansons cultes.
C'est pas l'homme qui prend la mer.
Ou leurs dernières découvertes. À demain, 20h sur Europe 1.
Europe 1, radio ouverte. Leclerc.
On a tous un rôle à jouer pour soutenir les producteurs français. Nous lançons aujourd'hui le ticket Leclerc solidaire. 20% en ticket Leclerc sur les produits frais Origine France. Cette semaine, profitez de la tomate Origine France et des poissons issus de la pêche française Pavillon France. Parce que c'est plus que jamais important de vous régaler et de manger équilibré tout en soutenant les producteurs français. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous.
Leclerc.
Offre valable du 28 mars au 4 avril et réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions en magasin.
Europe 1, il est minuit. L'info, le journal de la nuit, Isabelle Mini.
Et cette inquiétude qui grandit ce soir encore sur une saturation des services de réanimation des hôpitaux franciliens en particulier. On s'en approche, l'Île-de-France, mais aussi le Grand Est et Mulhouse, où la situation est depuis plusieurs jours déjà sous très haute tension. On en a beaucoup parlé sur Europe 1. Et aujourd'hui, inquiétude aussi en Moselle, où les soignants n'arrivent plus à faire face à l'afflux de patients. Les autorités de santé appellent au secours, Pauline Jacquot.
Oui, ce soir, l'appel à l'aide vient du centre hospitalier de Metz-Thionville. La direction parle aujourd'hui d'une situation extrêmement urgente. L'hôpital ne peut plus ouvrir de lits supplémentaires. C'est ce que craignaient les soignants. Ça y est, les capacités maximales ont été atteintes en réanimation. Depuis ce matin, 100 lits sont ouverts pour ces patients, alors qu'il est 93 sont déjà occupés et les autres le seront dans les prochaines heures, prévient le centre hospitalier de Metz-Thionville. Il faut que les autorités nationales, le ministère de la Santé nous aide, alerte la directrice générale Marie-Odile Saillard.
Si aujourd'hui je ne peux plus ouvrir de lit, que le même nombre de patients arrive tous les jours, peut-être plus, puisqu'on nous dit que nous ne serions pas encore au pic. Je ne sais pas où je vais les mettre, je suis dans une impasse. Nous devons absolument, impérativement, de manière vitale, transférer, je dirais, 12 patients par jour pour répondre aux besoins de la population et en particulier, je dis bien, j'insiste bien sur cette question des lits de réanimation.
1 à 2 patients par jour sont envoyés vers l'Allemagne. C'est très régulier, souligne la direction, mais ça ne suffira pas. Il faut accélérer les transferts vers d'autres régions françaises. Pour le moment, en ce qui concerne ce centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il y a eu plus de transferts de patients vers l'Allemagne que vers d'autres régions françaises.
Les précisions de Pauline Jacquot pour Europe 1. 418 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux français, ce qui porte à plus de 3000 le nombre de victimes dans notre pays. C'est la plus forte augmentation sur une journée depuis le début de l'épidémie. 5100 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. 10 millions de masques sont arrivés ce matin en provenance de Chine à bord d'un avion cargo, avion qui fera plusieurs allers-retours par semaine dans le cadre de ce pont aérien ouvert donc entre la Chine et la France. Notre pays a commandé 1 milliard de masques. Emmanuel Macron visitera d'ailleurs demain matin une usine de masques en périphérie d'Angers, dans le Maine-et-Loire, le plus gros des 4 producteurs français de masques, alors que l'on est en pleine polémique sur le manque de moyens de protection face à ce coronavirus. L'agence du médicament a averti ce soir que les traitements testés contre le Covid-19 pouvaient entraîner des effets indésirables graves et ne devaient en aucun cas être utilisés en automédication. Une trentaine d'effets indésirables graves, dont 3 décès, ont jusqu'à présent été signalé chez des patients atteints du coronavirus traités par de l'hydroxychloroquine mais aussi d'autres médicaments comme le calétrin, un antirétroviral associant lopinavir et ritonavir. En Italie, comme en Espagne d'ailleurs, plus de 800 décès ont encore été enregistrés aujourd'hui. L'Italie où le confinement est prolongé au moins jusqu'à Pâques le 12 avril. Et puis aux États-Unis, c'est New York qui inquiète particulièrement. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur place. Xavier, l'afflux de malades est tel qu'un navire hôpital a été envoyé à Manhattan.
Oui, et c'est une image saisissante qui restera sûrement dans les livres d'histoire. Cet immense bateau militaire tout blanc avec ses croix rouges sur la coque qui passe devant la statue de la liberté pour venir s'amarrer à Manhattan sur fond de skyline. Avec sa capacité de 1000 lits, le USNS Comfort vient soulager les hôpitaux de New York saturés de patients atteints du coronavirus. Certains sont même laissés chez eux faute de place. Autre image frappante, des grandes tentes blanches dressées dans Central Park. C'est un hôpital de campagne aménagé par une ONG chrétienne comme dans une zone de guerre. Et c'est vrai que c'est l'impression qu'on a ici à New York. On a dépassé les 1000 morts et les décès s'accélèrent au point que des corps sont désormais conservés dans des camions frigorifiques. Une vidéo a beaucoup ému les New Yorkais ce week-end. On y voit un engin porte-palette qui dépose des corps enveloppés dans des sacs mortuaires dans l'un de ces camions réfrigérés.
Les précisions de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 à New York. En France, les écoles pourront-elles rouvrir le 4 mai? Sur Europe 1, en tout cas ce matin, le ministre de l'Éducation a laissé planer le doute. Tout dépendra, a-t-il dit, de la situation sanitaire, bien sûr, à ce moment-là. En tout cas, en ce qui concerne la tenue du bac cette fois, Jean-Michel Blanquer promet une réponse d'ici la fin de semaine. À Paris, depuis ce lundi, les enfants de gendarmes et de policiers peuvent désormais être accueillis dans les écoles restées ouvertes pour ceux du personnel soignant, quand ils n'ont pas, bien sûr, d'autres solutions de garde. Notez qu'Édouard Philippe et son ministre de la Santé, Olivier Véran, seront auditionnés après-demain dans le cadre de la mission d'information de l'Assemblée sur le Covid-19. Les prix du pétrole n'en finissent pas de dégringoler. Conséquence de la baisse généralisée de la demande, ils sont au plus bas depuis 2002. L'Arabie Saoudite, qui est en ce moment en pleine guerre des prix avec la Russie, annonce son intention d'augmenter drastiquement ses exportations et de les porter à un niveau record. On savait qu'ils étaient reportés. On connaît désormais la date des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera du 23 juillet au 8 août 2021, quasiment jour pour jour, donc un an après la date initialement prévue. Alors que des doutes subsistent encore sur certaines compétitions, en tennis notamment, le tournoi de Wimbledon pour l'heure est maintenu, mais il pourrait, à l'image de Roland Garros, être reporté. Les organisateurs doivent prendre une décision mercredi. La météo, on voit ça tout de suite avec vous, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, encore pas mal de vent.
Oui, ça souffle encore bien, effectivement, Isabelle, sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire, la Bourgogne et la vallée du Rhône. C'est le vent de nord-nord-est qui souffle dès le lever du jour. Dans l'après-midi, les rafales vont même s'étendre sur toute la moitié nord du pays. Des rafales qui pourront aller jusqu'à 80 km/h dans l'après-midi. Dans le sud-ouest, de la Gironde jusqu'aux Pyrénées, sur le Limousin et le Languedoc-Roussillon, eh bien là, le ciel est voilé. Vous verrez quand même hein, de belles éclaircies dans l'après-midi. Et puis sur les Alpes du Sud, le Golfe du Lion et la Corse, hein, sur tout le littoral méditerranéen finalement, les nuages sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus épais, mais le temps reste sec avec des éclaircies possibles dans la journée. Partout ailleurs, eh bien, il fait beau. Le soleil brille dans un ciel sans nuages. Mais attention, je vous rappelle que le vent de nord-est souffle sur toute la moitié nord du pays. Les températures, elles sont froides demain matin et elles remontent dans l'après-midi. Alors nous aurons au lever du jour moins 4 à Montluçon et Clermont-Ferrand, moins 2 à Aurillac et Saint-Etienne, 2 degrés pour Paris, Lille et Lyon, 4 à La Rochelle, 6 à Marseille, Cherbourg et Montpellier, et déjà 10 degrés à Nice demain matin. Et puis dans la journée, nous avons un léger redoux dans le sud, 10 à 13 pour la moitié nord, et il fait bien meilleur dans le sud, hein, avec 14 à 17 degrés, jusqu'à 18 même dans le sud-ouest.
La météo signée Anissa Haddadi, et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes toujours en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne.
Merci Isabelle, et à demain.
À demain Olivier, très bonne soirée.
Merci, au revoir.
Europe 1, écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
C'est de 7 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin en direct, chers amis. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Florian, Jean-François, Philippe sont là et attendent vos appels avec impatience. Nous accueillons maintenant Tiffany au 3921. Bonsoir Tiffany.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, et vous ?
Bah écoutez, ma foi, ça va.
Enfin, ça va très bien, comme je dis toujours, ça fait même bizarre de dire ça, ça va très bien, ben, on essaye d'aller avec ce qui se passe, quoi.
Exactement, exactement.
Voilà.
Alors, Tiffany, dites-moi, racontez-moi.
Oui, c'est difficile de remonter. Pourquoi déjà, la première raison pour laquelle j'ai voulu envoyer un témoignage, c'est ma mère. Ma mère qui me parle tout le temps de vous. De cette émission.
Oui.
J'habite à New York.
Oui.
Je suis artiste et évidemment j'appelle beaucoup ma mère au téléphone et elle m'accompagne dans ma vie, ma carrière beaucoup et c'est une personne qui aime s'endormir avec des émissions de radio donc elle m'a parlé de vous et quand je suis rentrée en fait c'est pour ça que elle m'a dit, mais pourquoi tu n'appelles pas, tu devrais, tout ce qui t'est arrivé, toute ton histoire, etc. Et c'est vrai qu'elle est... moi, je suis artiste à New York et je suis musicienne, donc je compose, je sors des... J'ai sorti un album indépendamment. Et c'est vrai que ma mère a toujours été... m'a toujours soutenue, mais elle a toujours des phrases comme ça quand je rentre en France pour me dire, mais pourquoi ta musique passe pas en France? Et pourquoi en France-ci? Et pourquoi en France? Et je dis, maman, c'est compliqué en France. Et c'est vrai que je ne cherchais jamais vraiment à... j'avais pas vraiment essayé de comprendre ou de voir un petit peu quand je rentre, etc. Mais... Et par rapport au virus, alors c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est que... Je sais pas que... Quel angle de mon histoire vous intéresse le plus? Si c'est par rapport au virus, si c'est par rapport à New York, si c'est par rapport à...
Écoutez, racontez-moi déjà comment vous êtes arrivée, vous, française, à habiter New York aujourd'hui, à être artiste. Et puis, vous me parlez, vous savez, le principe de cette émission, c'est que c'est vous qui choisissez de quoi vous me parlez.
Okay.
Ça s'appelle Libre Antenne,
d'accord.
Donc moi, je vous écoute.
Ok. En fait, c'est vrai que, comme j'ai entendu les précédents témoignages, c'est vrai que ce virus nous met une sorte nous met face un peu à nous-mêmes, où est-ce qu'on en est dans notre vie. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis deux claques. Donc moi, je suis arrivée il y a 9 ans, en fait. Je suis arrivée aux États-Unis il y a 9 ans. Donc moi, j'étais en France, j'étais danseuse, comédienne. Moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et j'ai toujours été quelqu'un qui, OK, je veux ça, je vais le chercher. J'ai jamais pris les choses comme quoi c'est facile. J'ai jamais rien eu de facile, d'ailleurs. J'ai toujours eu un côté assez malin
déterminé.
Dans le sens. Ouais, mais une intelligence dans le sens, OK, donc si je veux faire ça, par où est-ce que c'est le chemin qu'il faut prendre pour y aller? C'est-à-dire, j'ai jamais cru que les choses tomberaient comme ça.
Oui.
Et c'est vrai que je suis devenue danseuse professionnelle. J'en rêvais petite, mais petite, j'étais un peu rondelette. Je voulais être petite à l'opéra, mais comme j'étais rondelette, je me disais, c'est pas possible. Puis j'avais une prof qui me soutenait pas. Puis il y a toujours, dans votre parcours d'artiste, il y a des gens, en fait.
Oui.
On a besoin de ces gens qui, d'un coup, ils vous disent, mais tu sais que c'est bien ce que tu fais. Et là, vous faites, ah bon? Et vous vous rendez compte que juste une personne vous dit ça. Et moi, quand j'étais petite, cette prof m'a dit, mais Tiffany, mais va prendre des cours à Paris, va découvrir les autres danses. Et c'est comme ça que je suis devenue danseuse professionnelle. Et puis, de fil en aiguille, je passe à la télé, dans une série, deux. Tout ça, ça me fascinait. Et
ouais.
Je pense que ça venait de j'avais un côté, j'ai un côté extrêmement sensible au monde extérieur, c'est-à-dire j'ai besoin d'accumuler tout ce qui se passe en moi et de le sortir, quoi. Donc j'avais toujours besoin de m'exprimer à la maison et tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais un peu bouffée, moi, par l'énergie française, en fait.
Oui,
vous savez,
oui.
Ce côté, d'ailleurs, quand je rentre, je le remarque encore plus. Et d'avoir été aux États-Unis, je le remarque. On est en France, on a vraiment un problème de... Vous voyez, on parle... Et là, j'entendais pareil, je comprends tout ce qui doit se virer, c'est très grave, mais on passe notre temps à voir qu'est-ce qui va pas, et on n'a pas ce côté de se dire, OK, mais comment on peut aller mieux? OK, mais j'ai ça peut-être, comme elle disait la personne, Catherine, je crois, qu'elle disait apprendre à voir ce qu'on a. Et moi, c'est vrai qu'à force, en étant artiste en France,
oui.
Je sais pas comment expliquer, les gens nous poussaient. Les gens étaient toujours négatifs. Moi, ça me... Et je suis allée aux États-Unis une fois. Et juste, je sais pas, de sentir l'énergie des gens autour de moi qui disaient, ouais, c'est génial, it's great. Alors évidemment, après, on apprend à se calmer, à pas toujours croire ce qu'on vous dit, à pas toujours... Quand un Américain vous dit c'est super ce que tu fais, faut aussi avoir des nuances. Mais c'est vrai que quand vous êtes un artiste comme ça qui avait besoin d'avoir confiance, vous débarquez dans un pays comme ça. J'ai envie de vous dire, aux États-Unis, le travail paye. En France,
ouais,
j'ai
ouais.
du mal parfois à trouver en art, enfin dans le milieu artistique, si vraiment c'est vrai ou pas.
Vous savez, il n'y a pas que le milieu artistique. Hein. Je crois que la grande différence entre la France et les États-Unis.
Oui.
Je vais vous citer deux exemples. En ce moment, je l'ai évoqué 2-3 fois sur cette antenne. En ce moment, en France, on a une publicité, moi qui me, bon, il y en a beaucoup qui me choquent, hein, notamment sur notre antenne, où on imite un patron français qui surprend.
Ouais.
Mais bon, c'est pas cette pub-là dont je vais vous parler. Je vais vous parler d'une pub sur les assurances. En fait, vous avez un couple.
D'accord.
Qui dit, la femme dit donc à son mari, va voir et tout, va lui parler de ton assurance et tout. Et puis le mari y va, et puis il revient, il perd en rogne en disant, ah, il paye 3 fois moins que nous. Et, bon, et vous voyez, et je trouve que cette pub, elle reflète parfaitement l'esprit français. En fait, aux États-Unis, ce même mec serait revenu voir sa femme en lui disant, il paye 2 fois moins que nous, il faut qu'on arrive à payer 3 fois moins. Vous voyez, j'ai le voisin a une belle voiture. En France, on va être jaloux de la belle voiture du voisin. Aux États-Unis, on va se dire, oh, mais moi, je veux la même. J'en veux même une plus belle que lui.
Ouais.
En fait,
et en France, on va même essayer de cacher la voiture.
Et voilà. Et ça fait toute la différence. En France, exactement. En France, en plus, on la cache. En France, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas d'argent.
Non.
On ne parle pas d'argent. C'est quelque chose de voilà, c'est presque un... blasphématoire de parler de ce qu'on gagne. Aux États-Unis, non.
Non.
Voilà, c'est tout un tas. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'horripile aussi en France, c'est que c'est toujours l'autre qui est responsable du malheur, de son malheur. On n'est jamais à se dire qu'on est finalement maître de son destin et que
Exactement.
Les choses, on va les chercher, on les provoque.
Et c'est vrai que bah, justement, moi, cette chanson que j'ai écrite sur ça, qui s'appelle Under My Sun, c'est on met son soleil dans sa maison, c'est à nous de le mettre. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte à quel point, d'un point de vue psychologique ou même physique, d'avoir le mental. Bon, moi, j'ai toujours un mental très fort, mais quand j'ai débarqué là-bas, d'avoir moi mon mental fort, encouragé par un environnement qui prenait le travail, la réussite et qui me poussait, et ben je suis partie quoi. Et c'est vrai que j'ai j'ai fait une école, j'ai eu une bourse, j'ai passé des auditions, j'ai décroché des auditions, je me levais à 5h du matin, je faisais la queue pour les auditions à New York et tout ça. Et quand j'ai décroché ma première audition au milieu de 500 autres filles, je me suis dit ah ouais, je me rappelle, à cette époque, j'avais un copain, c'est lui qui m'avait fait découvrir les États-Unis, mais il est rentré parce qu'il n'avait pas le courage de vivre ça. Il m'a dit, mais tu l'as fait, t'as été et t'as décroché ton audition. Et il était presque bouche bée comme quoi, ah ben mince, tu l'as fait quoi. Et en fait, je suis restée comme ça, à continuer. Puis bon, moi, je faisais des... il faut un visa, vous savez, d'artiste. Alors quand vous faites des visas d'artiste, il faut montrer aux États-Unis à quel point vous êtes génial, vous accumulez les articles. Et donc c'est vrai que je passe en revue tout ce que je faisais dans ma carrière. Je me dis waouh, et je continuais. Et puis un jour, j'ai été prise sur ce spectacle, sur cette comédie musicale, et on m'a envoyée dans un théâtre dans le Wisconsin. Alors, il y avait vraiment rien à faire. C'était génial, on était dans des maisons, on avait trois jours de travail et le reste on n'avait rien. Et puis j'avais essayé d'apprendre la guitare, puis j'avais laissé tomber, et puis du coup on m'a prêté une guitare, j'ai commencé à la composer. Et puis je suis rentrée chez moi et je me rappelle, je suis allée faire vous savez les open mic où... Et puis il n'y avait pas de tabouret, ils m'ont demandé de rester debout et c'était horrible parce que je ne savais pas jouer debout, il fallait que je regarde ma guitare. Enfin, je suis sortie de là, c'était l'expérience la pire de ma vie, même si ça ne s'était pas trop mal passé. Et après, je m'entraînais dans ma chambre debout et puis je me suis dit pareil, mon cerveau qui fonctionne à 200 à l'heure, je me dis Tiffany, tu ne vas pas t'entraîner dans ta chambre, perdre du temps, tu ne gagnes même pas d'argent, va dans le métro au moins, ça va te pousser un peu, tu vas peut-être gagner de l'argent, tu verras. Donc j'y suis allée. Et c'est là en fait, ça a été le déclic, c'est que je me suis mis dans le métro, je me suis mis dans la rue. Alors le premier jour, j'avais très peur, je me rappelle, un ami m'a accompagnée. Et en fait, je me suis mis à chanter et là, les gens, ils s'arrêtaient. Il venait, il me fait, mais votre voix, mais vous avez une voix magnifique, mais on dirait un ange, mais oh, qu'est-ce que vous m'apaisez, vous me faites du bien. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est peut-être ça, c'est ça en fait mon truc. Et quand j'étais plus jeune en France, je me rappelle, j'étais artiste, je rêvais, je me disais, mais moi, j'ai pas de truc. Et je voulais avoir un truc. Et alors qu'à l'époque, je pense que j'en avais un, mais je le savais pas. Et c'est vrai que quand j'ai compris que ma voix faisait quelque chose aux gens, je me suis dit, mais c'est ça mon truc. Et puis, de pouvoir écrire ce que j'avais à l'intérieur. Parce que moi, j'ai été longtemps, quand j'étais jeune, j'avais mal dans ma peau, etc. J'arrivais pas à écrire. Et c'est vrai qu'en vieillissant, en m'assumant, j'arrivais à écrire. Et c'est vrai que trouver cette carrière d'écrire et de jouer de la guitare et de chanter, je commençais à trouver ce que je voulais faire. Et puis, on m'a proposé de jouer dans des restaurants. Et puis après, c'est marrant, vous parliez du bateau. J'ai entendu que vous parliez aux infos de ce bateau qu'ils ont amarré. J'ai un ami qui m'a envoyé la vidéo en première ligne. Parce que moi, en fait, j'ai travaillé je chante sur un bateau qui fait les dîners à Manhattan.
Oui.
Et c'est un contrat que j'ai eu parce que quelqu'un m'a vu. Cette femme est venue me voir jouer à Manhattan. Elle m'a dit, mais je veux vous faire jouer sur notre bateau. Et en fait... j'ai rencontré plusieurs capitaines, donc c'est des capitaines qui sont là, ils conduisent ces bateaux-là, mais ils font d'autres jobs. Et cet ami, justement, lui, il travaille pour tous ces bateaux qui enlèvent les déchets sur la Hudson.
Oui.
Et il m'a envoyé la vidéo, il m'a dit, regarde, le bateau arrive. Et c'est marrant, il me l'a envoyé aujourd'hui, justement. Donc c'est vrai que j'ai commencé à jouer dans pas mal d'endroits comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai voulu sortir mon album. Alors c'est pas simple, ça coûte de l'argent. Puis moi je voulais travailler avec des gens que j'aimais. Puis j'ai été voir le concert des Lumineuses. Je sais pas si vous connaissez.
C'est non.
Vous savez, je chante la chanson Hey ta da da ta da ta da ho ta da da.
Ah oui, ouais. D'accord.
Je crois qu'elle a été prise sur une pub de la chanson. Enfin bon. Et en fait, vous connaissez les Felicity Brothers?
Non, je connais pas. Je suis désolée.
Non, mais c'est pas grave. C'est un groupe. Ils sont connus. Les Mumford and Sons, c'est un peu le même genre. Enfin bon. Ils sont tous dans la même lignée, mais ils ont Simon Felicity. Il était dans les Felicity Brothers, et en fait, c'est lui qui a fait l'album avec les Lumineuses. Et je me suis dit, mais t'es folle. Mais je lui ai envoyé un mail. Et en fait, j'ai envoyé une chanson en français. Et ils m'ont contacté, et son manager, et il m'a dit qu'il aimait vraiment ce que je faisais. Et puis bah, après, on a discuté d'argent, et je lui ai dit que j'étais complètement indépendante. Et il m'a dit, OK, on a des prix intéressants, on a des prix vraiment raisonnables pour les indépendants. Donc on s'est arrangé. Je suis partie 2 jours à Woodstock avec lui et son collègue. On a fait 2 chansons, dont Under My Sun, qui est une chanson qui m'a... Ça fait 2 ans qu'elle m'accompagne, dans le sens où tout le monde entend cette chanson et tout le monde est touché. Ouais. Et c'est vrai que ça a été un déclic pour moi, en fait, parce que je me suis trouvée artistiquement. Je me suis retrouvée avec ces gens-là qui me disaient que ce que je faisais, c'était bien, qui m'ont poussée à rester dans la simplicité, dans la douceur. Et j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et puis, je voulais faire un album, mais c'était fou. Puis ma mère, on en reparle. Ma mère qui me dit, mais t'inquiète, on va se débrouiller, il faut le faire. Ma mère qui est toujours, qui est toujours là. Je suis partie de la maison, j'avais 18 ans, mais elle est toujours là. Je sais qu'elle est là s'il y a quelque chose. Et donc, j'ai fait cet album. Et pareil, j'ai passé des heures à envoyer des mails à tout le monde, les dossiers de presse, les machins, enfin, faire tout moi-même, en fait, essayer de faire que cet album. Et j'ai eu des belles choses, organiser mes concerts, envoyer à des salles. Et puis, un jour, l'été dernier, j'ai fait ce couple de Canadiens qui m'ont dit, mais vous avez déjà été au Québec. Et c'est vrai que avec Trump, avec plein de choses, les États-Unis ont commencé un peu l'énergie a changé. Il y a quelque chose qui a changé avec l'élection de Trump.
De Trump,
ouais. Ouais. Il y a une sorte de... J'ai plus reconnu mes Américains comme je les aimais, avec ce côté positif. Il y avait aussi
Il y a une peur qui s'est installée, je pense.
Et il y avait aussi peut-être moi qui ouvrais les yeux sur beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir quand on est un Français qui débarque et qui veut réussir. Parce que les États-Unis, quand vous voulez réussir, vous êtes pas trop... Vous êtes intelligent et vous avez... cette éducation et cette bâtisse française, dans le sens où nous, les Français, comme on grandit, on vit pas sur les crédits, on fait pas ça, on fait pas.
Non,
donc
non.
On arrive aux États-Unis avec nos bonnes habitudes françaises, j'ai envie de vous dire, et on sait comment gérer sa vie aux États-Unis pour pas flancher. Mais le problème, c'est que on essaye ça marche parce qu'on s'arrête pas, on travaille, et tout ça marche. Mais c'est vrai que quand autour, tout a commencé à se compliquer avec Trump, mais moi, mon visa... Il y a eu des choses qui ont changé et j'ai commencé à me sentir moins en amour avec le pays.
Ouais.
Et moins en amour, simplement. Et moi, je fonctionne avec mon cœur depuis toujours et j'arrivais plus à trouver. Donc j'ai commencé à être un peu perdue. Et je suis allée au Québec faire passer l'audition pour The Voice, là-bas. Donc ça s'appelle La Voix.
Oui.
J'ai rencontré un couple charmant de Canadiens, c'était les producteurs. Enfin bon. Et je vous dis ça parce que c'est passé hier soir, en fait, l'étape où moi, après, je suis partie.
Vous êtes partie, c'est-à-dire vous n'avez pas été retenue ou vous êtes...
Ouais, j'ai fait... je suis allée jusqu'au battle, ce qu'on appelle, en fait. Donc
ouais.
J'ai fait... et c'est vrai que je me suis retrouvée donc en décembre être au Canada. J'avais mon visa qui devait renouveler. J'étais un peu perdue. Et je me disais, je suis rentrée à New York, c'était il y a un mois, un peu plus, il y a 2 mois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai de la musique qui doit sortir, mais j'essayais de savoir si je la sortais. Vous savez, je l'envoyais à tellement de gens, puis il y a des gens qui vous disent, attendez, mais c'est génial, je vais l'envoyer à cette maison. Attendez, je te mets en contact avec un tel. Et ça faisait 2 mois que ça durait comme ça avec ma nouvelle musique. Et finalement, rien ne se passait et moi, j'attendais. Et les contrats, quand vous passez un truc comme The Voice, on vous dit vous n'avez pas le droit, donc vous attendez. Donc j'étais en attente et je suis rentrée à New York et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus. Et c'est pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais envie d'abandonner. Et je me rappelais dans ma carrière, dans tous ces 9 ans aux États-Unis, avoir croisé ces gens-là, justement, aux États-Unis, il y en a beaucoup des musiciens, vous les croisez, puis vous dites, ouais, je faisais de la musique avant, mais là, j'ai pris un job, tu comprends, j'ai pris un job. Parce que là-bas, il faut gagner de l'argent. Là-bas, c'est l'argent. Et c'est vrai que j'ai commencé à m'asseoir et à comprendre ce que ça voulait dire, et me voir vieillir, me voir... dans ce pays où rien n'est stable, où le système est complètement bancal, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et je me rappelle au Canada, quand j'ai perdu mon épreuve, ma mère était là, et je l'ai regardée, j'ai dit, mais tu te rends compte, maman, que toi, jamais une fois, tu me dis, mais Tiffany, tu pourrais peut-être que tu prennes un job normal,
ça, tu vas pas continuer à faire ce délire pendant. Et elle me le dit pas. Je lui dis pourquoi tu me le dis pas. Et j'avais presque envie qu'elle me le dise, parce que je me suis retrouvée à m'asseoir et me dire mais ça y est, il faut que je prenne un job normal. Oui. Ça y est,
mais c'est si votre mère. Si votre mère ne vous le dit pas, c'est qu'elle elle est intimement persuadée que vous allez y arriver.
Oui. Ouais. Et c'est vrai que. Et puis il y a des gens qui me disent mais Tiffany, tu y arrives déjà. Et c'est vrai que pour des gens en France, ah oui, moi j'ai déjà fait. I made it in the US. Mais c'est vrai que moi je pense que constamment je veux avancer, je veux grandir. Et donc je me suis dit j'ai besoin d'un break. C'est ça que j'ai du mal à vivre aujourd'hui. C'est que je me suis dit mais j'ai besoin d'un break. J'ai besoin que tout s'arrête. Je sais pas ce que je veux faire. Et là, il y a tout ce qui s'est arrivé avec le virus.
Oui.
C'est arrivé comme ça. J'étais en plein questionnement chez moi. Je dormais dans mon salon parce que j'avais deux colocs qui louaient mon appart parce que et je leur avais pas dit de partir parce que ça m'arrangeait en fait. Et j'ai ce truc qui arrive. Et c'est vrai que aux États-Unis on l'a pas pris du tout. On l'a pas pris au sérieux. Mm-hmm. Personne. Et puis les gens, ils ont. C'est marrant parce que je lis une newsletter d'un Bob Laffitte. Il envoie des newsletters et il parle et il dit. Il faut que l'Amérique arrête de croire qu'elle est mieux. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, quand le virus a commencé à faire parler de les Américains, ouais, mais nous, ça va pas. Nous, il va y avoir que quelques cas. Je me suis même disputée avec des amis musiciens. Mon ami, mon pianiste, il m'a dit, mais non, mais Tiffany, ça va être... Nous, on n'aura que quelques mille cas, et puis c'est tout, t'inquiète pas, et tout. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à annuler notre boulot, parce que moi, je joue le soir. Donc, quand ils ont commencé à fermer les bars... Bah, nous, ça veut dire qu'on n'a plus de travail, nous,
boulot,
les
musiciens ouais,
qui jouent.
Ouais.
Et en fait, j'ai joué je me rappelle, c'était le 12 mars, j'ai joué j'avais encore un gig, et puis je commençais à me dire qu'est-ce que je fais. Et puis, je me suis assise sur Internet et j'ai regardé, il m'a suffi juste de ça. C'est pour ça que des fois, je me dis dans cette histoire, quand on s'informe juste à la source, moi, j'ai regardé un reportage sur la Chine et l'Italie.
Ouais.
Et une heure de reportage sur Internet. Sur des gens, des vrais gens qu'on avait filmés chez eux, qui expliquaient comment ils vivaient. On les voyait en quarantaine. On en voit même une qui est malade et qui soigne son amie. Enfin bon, j'ai éteint le truc et je me suis dit, ok, ça va être très grave. Ça va être un tsunami. Je crois qu'il faut que je rentre. Et ma mère, je la sentais angoissée, qui me disait, mais tu peux pas rester dans ce pays, l'assurance, la maladie, bah, on entend tellement de choses, les hôpitaux. Moi, je me suis toujours dit, si la santé, il faut que je rentre. Si j'ai la possibilité de rentrer, il faut que je rentre. Et donc, j'ai vu ce reportage, j'avais des gens chez moi dans mon appartement, je me suis dit, ok, je rentre. Et je me suis dit, si je rentre pas maintenant, je pourrais plus rentrer. J'avais
ouais,
peur.
Bloqué.
Et donc, j'ai pris ma décision et j'ai pris mon billet et je suis partie, quoi. Je suis partie, j'ai tout laissé et au milieu de moi, de mon questionnement personnel, et je suis arrivée là et puis j'essaye de continuer à je fais des concerts en ligne, j'essaie d'envoyer ma musique et je me rends compte en fait que les gens m'envoient des messages et me disent oh, votre musique a fait du bien. Quand je fais des choses en ligne, on me dit ça me fait du bien et je me rends compte qu'en fait j'essaye juste de me dire ok. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour aider, mais moi, pour l'instant, ce que je sens, ce que je peux faire, c'est juste jouer la musique, essayer d'apaiser les gens avec ça, moi, de m'apaiser, et de prendre chaque jour, prendre chaque jour comme l'un après l'autre, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on a l'impression que tout paraît complètement, par exemple, là, j'ai juste pensé, est-ce que je vais sortir ma musique ou pas, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, ou est-ce que je vais... Tout paraît complètement sans...
Oui, mais c'est reporté, et tant qu'on n'aura pas redémarré, vous voyez, tant que tout ça ne sera pas reparti, c'est compliqué.
Exactement.
Votre projet, en plus, la musique, ça tient beaucoup sur la réception, comment on reçoit cette musique, comment on va vivre, et il faut qu'au moment où vous la sortiez, on soit... en paix pour l'écouter, qu'on ait, vous voyez, le temps de nous poser et de l'écouter.
Et en même temps, on se dit que des fois, on se dit, bah, peut-être qu'en ce moment, justement, tout le monde est... C'est un peu bizarre, parce qu'on est tous confinés, on a le temps, en fait, mais on n'a pas le temps.
Ouais, mais on n'a pas...
complètement anxieux.
Ouais, on n'a pas... Je pense qu'on n'a pas le... Enfin, vous voyez, en tout cas, pour sortir de la musique maintenant, je pense que ça serait une erreur de le sortir maintenant, en tout cas, le nouveau... que vous fassiez de la musique pour faire du bien aux gens sur Internet. Il y a plein d'initiatives comme ça sur Internet de beaucoup d'artistes qui jouent et qui font beaucoup de bien. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler par mes amis, tout simplement. Ils m'ont dit, ah tiens, t'as vu, il y a un tel café ci, un tel café ça. J'ai vu hier soir même M qui...
Oui, ils font tous des concerts.
C'était très agréable. Mais pour sortir un projet, vous voyez, quelque chose qui marque une étape importante de votre vie et donc aussi une étape musicale pour celles et ceux qui vont aimer votre musique, je pense qu'il faut attendre. Évidemment.
Mais c'est vrai, ce qui est dommage dans ces moments comme ça, c'est qu'on se dit comment faire pour... Parce que vous savez, maintenant, tous ces artistes connus font aussi leur concert en ligne. On se dit, avec tout le temps qu'on a, est-ce que c'est possible que parfois, les radios, les artistes plus connus, et à un moment donné, on essaye de donner la place à des artistes moins connus?
Alors, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, en France, sachez que c'est extrêmement compliqué.
Je sais, oui.
Et que je serai le premier à pousser de jeunes artistes, mais c'est extrêmement...
C'est vrai, hein, c'est compliqué. Moi, c'est ce dingue. Que j'ai cru comprendre. Hein, mais
vous savez, j'ai fait de la musique, donc je sais aussi de quel...
Oui, je sais, vous avez fait.
De quoi vous parlez. Et donc, du coup, c'est vrai que... Bon, mais c'est vrai que aussi l'environnement a beaucoup changé en même temps que le numérique a apporté la possibilité à des artistes qui faisaient de leur création dans leur salon ou dans leur cuisine de devenir des stars même mondialement connues. Il a aussi démultiplié les projets, les artistes, les courants le business de la musique n'est pas celui que j'ai connu moi hier, qui était beaucoup plus indépendant, beaucoup plus on sortait d'un lot, il y avait presque une League One, League Two des artistes en France, quoi. Et
mais par exemple, on s'est beaucoup plaint du streaming, et moi, personnellement, ça fait 2 ans que je me bataille pour essayer d'arriver à avoir mes chansons sur des playlists, vous savez, où qui sont faites par les plateformes.
Oui, les plateformes comme Deezer ou tout ça.
Parce que pour nous, c'est une source de revenus qui, quand vous arrivez à être sur des playlists où il y a des millions d'écoutes, ça vous fait un revenu tous les mois qui paye votre loyer. Oui. Et c'est vrai qu'on s'en est plein, mais dans une période comme ça, pour nous, c'est la solution.
Oui.
Et aux États-Unis, dites-vous que, alors, on se plaint beaucoup de l'intermittence, tout le monde se plaint de tout. Voilà, personne n'est content. Mais aux États-Unis, là, c'est tellement bancal qu'on se retrouve tous, on n'a rien. On n'a plus rien. C'est-à-dire, moi, je serais à New York chez moi. J'aurais quand même mon loyer à payer, donc j'ai reçu un texto de mon propriétaire qui me dit j'espère que vous allez bien dans cette crise. Il nous dit pas si vous avez du retard, non, il nous dit maintenant vous pouvez payer en ligne. Voilà ce qu'il vous envoie. Donc,
on n'a rien. En France, vous noterez aussi, c'est bien de vous entendre ce soir dire que en France, on a quand même tout un tas de protections dans ce moment particulier et tout un tas de facilités parce qu'on entend beaucoup de gens critiquer la France, critiquer le gouvernement actuel qui fait quand même beaucoup de choses aussi, qui a eu des initiatives particulièrement envers les entreprises et qui ne laissera pas tomber de toute façon les Français, quoi qu'il arrive.
Non, et c'est vrai je pense que, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, vous pouvez... Moi, j'en ai reçu beaucoup, des propositions comme ça. Vous avez des cartes de crédit et on vous propose de vous donner 3 000 $ de crédit par mois et vous avez besoin de rembourser juste 30. Alors moi, je le fais jamais parce que ça me stresse, je veux pas. Mais tout le monde vit comme ça. Donc des moments comme ça où tous ces Américains se retrouvent sans travail. Déjà d'une, les Américains, ils savent pas rester chez eux. Donc ils mangent tout le temps dehors. Ils savent pas vraiment faire face à leurs sentiments et aux émotions. Ils sont pas trop dans les discussions. Il y a un peu la voix qui se lève, les pleurs, tout ça. Pour eux, c'est très négatif. Donc ils vont se retrouver tous chez eux à devoir cuisiner alors qu'ils cuisinent pas. Ils peuvent pas ils peuvent pas aller au bar boire leur bière pour oublier. Ils peuvent pas travailler, se mettre la tête dedans parce qu'il y a plus de travail. Et puis ils se retrouvent face à des crédits énormes et ils ont rien. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien.
Ouais.
Donc c'est des artistes comme moi qui jouent le soir et le truc c'est que cette année on peut gagner très bien sa vie. Mais moi ça m'a mis en face du fait que si ça, tout ça s'arrête, cette chaîne sans fin, parce qu'en plus New York c'est une ville qui s'arrête jamais. Moi j'ai fait les boulots, le bar, les serveuses, on s'arrête pas, on peut avoir trois boulots à la fois, et ça je trouve ça bien, parce que si on a envie de gagner notre vie et de se mettre dedans, c'est top. Mais pareil, à New York, vous pouvez être engagé dans un bar, et puis si on veut vous virer deux semaines après, on vous vire. Mais c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, moi, je prenais un boulot, je savais que si j'étais prise sur un spectacle, bah, j'allais voir mon boss et je disais, écoute, j'ai un spectacle, je m'en vais. Et puis, comme il m'aimait bien, il me faisait, ok, vas-y, puis quand tu reviens, tu me diras. Puis il me reprenait. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas, en France, moi, je me rends compte maintenant, je me dis, oh, l'intermittence du spectacle, mais je donnerais tout maintenant pour être assise chez moi, recevoir mon intermittence, pouvoir faire un stage AFDAS. Moi, j'ai une copine là qui fait un stage, elle apprend à faire de la production musicale. Bah, moi aussi, je veux apprendre la production musicale, mais moi, je vais devoir aller sur YouTube et faire mes cours toute seule parce que je n'ai pas d'argent pour avoir ça.
Et est-ce que vous vous êtes branchée un petit peu en France avec votre musique ou pas ? Est-ce que vous vous êtes branchée en France avec votre musique ?
Vous voulez dire envoyer ma musique
Oui, à des labels.
Pas des labels, mais j'ai envoyé. Là, je commence un peu. Là, j'ai essayé d'envoyer quelques radios. Il y a quelques années, j'ai fait la première partie d'Arnaud Ducret. C'était vraiment super. Ouais. Je commençais un peu à faire ma musique et c'était moi ce que je recherchais. Moi ce que j'aimerais vraiment, c'est jouer live. Donc moi c'est vrai que décrocher des premières parties, c'est un peu ça que je cherche. Après les labels, non, j'ai pas trop. Il y a du pour et du contre. Moi ce que je chercherais plus, c'est peut-être plus quelqu'un. Même à New York, c'était plus ça, un manager ou un booker. Mm-hmm. Je sais pas comment dire en français.
Un manager.
Il y a ça, mais il y a ceux qui mettent sur les spectacles, c'est des tourneurs, c'est ça ?
Oui, des tourneurs, ouais, exactement.
Mais en France, je ne sais pas si c'est pareil qu'aux États-Unis. Pour avoir un tourneur, il faut peut-être déjà être connu, je pense.
Mais déjà, pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent aller voir votre musique, on vous trouve
oui,
où ?
Oui, bien sûr.
On vous trouve où ?
Partout.
Mais c'est quel nom, dites-moi ?
Alors, Tiffany Doucet, donc T-I-P-H-A-N-I-E, D-O-U-C-E-T. J'ai fait un petit message sur le groupe...
Europe 1
Facebook, donc il y a un lien.
Ah bah super, très bien.
TiffanyDoucet.com ou Tiffany Doucet sur toutes les.
Sur Instagram, on vous trouve, sur YouTube.
Voilà,
on vous trouve.
Instagram, YouTube, Spotify, voilà. Et c'est un folk très douce, et, en français et en anglais. Voilà.
D'accord, super. Et alors, où en êtes-vous là maintenant où en êtes-vous de votre réflexion depuis que donc vous êtes rentrée en France, j'ai compris, vous êtes avec maman là.
Ouais.
Bon, et alors, vous en êtes où de votre réflexion ? Quand tout ça va s'arrêter d'ici, d'ici 3 semaines, 4 semaines, on va sentir la fin arriver. On va dire que fin avril, on va commencer peut-être à aller toucher du doigt la fin et un redémarrage. Vous imaginez ça comment ensuite ? Vous allez repartir aux États-Unis ?
Je pense qu'il va falloir que je reparte parce que j'ai ma vie là-bas. Mais moi, pendant ces 4 semaines-là, justement, ce que vous me dites, envoyez un peu votre musique. J'ai envie de voir un peu... j'ai envie de préparer une sorte de retour éventuel et voir comment je pourrais jouer ici. Parce que c'est vrai que je vois tout ce qui se fait et je me dis j'aurai ma place. Maintenant, comme vous dites, c'est compliqué. Mais moi, je pense, c'est clair que l'Amérique, ça a été une expérience formidable, mais je pense pas que je voudrais finir ma vie là-bas. Donc, mon pays, c'est la France. De partir, ça m'a appris à l'apprécier, ça m'a appris, ça m'a rendu plus solide, ça m'a ouvert tellement d'horizons. Mais je pense que oui, moi, je veux pas complètement tourner le dos et je voudrais justement pouvoir maintenant amener. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait en France et revenir et faire découvrir ce que je fais et jouer dans mon pays quoi.
Très bien.
Ça, c'est sûr.
Très bien. En fait, quand vous dites que votre vie est là-bas, c'est vous avez construit beaucoup là-bas, mais vous voyez peut-être transformer l'essai ici en France peut-être comme artiste.
Transformer quoi ?
Transformer tout ce que vous avez appris là-bas, transformer tout ce que vous avez accumulé comme connaissances là-bas, peut-être ça vous servira ici.
Oui, exactement. C'est vrai que moi je fais tout toute seule et je suis persuadée dans la vie qu'il faut, on me l'a toujours dit, encore plus en musique, faut pas lâcher. Et c'est vrai que je me suis retrouvée il y a un mois dans ce moment-là où vous savez, quand c'est comme quand vous nagez, vous devez arriver sur l'autre rive. Et au début, ça va, mais c'est toujours quand vous approchez de l'autre rive que ça devient vraiment dur et que vous êtes fatigué. Et c'est là où il faut vraiment pas lâcher, quoi. Donc moi, je suis un peu à ce moment-là. Donc je veux pas lâcher et je veux pousser. Et c'est vrai que, mais d'avoir eu toute cette réalisation par rapport aux États-Unis et de voir un peu l'autre côté de la médaille, je me dis quand même, j'ai un pays qui offre, qui a une superbe culture, on est quand même des gens, enfin je sais pas, on a de l'or en nous et sous nous et devant nous, et on sait pas l'apprécier. Et je trouve que maintenant que je suis partie, je voudrais dire à tout le monde qu'il faut absolument qu'on, en France, il faut absolument qu'on essaye de voir le verre à moitié
plein. Mais oui, complètement.
Parce que vraiment, on est. Et je vois aux États-Unis, si vous saviez à quel point ils nous. Oh, la France, qu'est-ce que c'est beau, la nourriture. Et franchement, au début, j'en rigolais un peu parce que ça me faisait rire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, on est, notre langue, c'est magnifique. Nos femmes, elles sont belles. Notre nourriture, elle est super bonne. La façon dont on est élevé, à parler ouvertement des choses, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on ne se rend pas compte, c'est acquis pour nous.
D'aller
à l'hôpital et d'être soigné et de ne pas payer.
Complètement.
Voilà. Alors, évidemment,
c'est bien de vous entendre. C'est bien de vous entendre parler,
oui.
Vous savez, comme ça, parce que vous êtes une jeune Française de 30 ans, ayant vécu aux États-Unis, et on perd conscience de ça en France. On a vécu une année difficile, avec beaucoup, tout le temps de revendications, beaucoup, toujours de demandes, parce qu'on oublie quand même.
Moi, ça fait un peu l'effet, ce que je dis souvent, c'est que ça fait un peu l'effet, vous savez, quand vous avez des enfants jeunes et vous êtes parents, ça me fait un peu ça, ce qui se passe en ce moment avec les présidents et tout, c'est que quand vous êtes un enfant, vous dites toujours, le parent, c'est sa faute, il fait que mal, et on
ne
peut pas, en parent, il y a des choses qu'on est obligé de faire, ça va déplaire. Et là, j'ai l'impression que si nous, tous les pays, tous les gens, les présidents, on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, c'est pas possible de satisfaire tout le monde. À un moment donné, il va falloir donner pour recevoir. On est beaucoup plus sur la planète qu'il y a des années. On peut pas garder tout ce qu'on a. Il va falloir tous se mettre dans la main.
Exactement.
Et d'accepter aussi que les gens fassent des erreurs.
Il va falloir réaliser qu'on est gâté. Quand on vous écoute, on réalise qu'en France, on est vraiment gâté et qu'on est vraiment protégé. Comme dit Valérie ce soir au 739-21, on est bien content d'être au bercail en France.
Ouais.
Vous avez raison, Valérie.
Ouais.
C'est exactement ça.
Heureusement, il y a la musique. Quand on est confiné, on peut écouter et ça nous calme.
Très
ça
bien.
Fait du bien.
Bah, écoutez, merci beaucoup,
oui.
Tiffaine, pour ce témoignage très édifiant. Et puis, je vous souhaite vraiment plein de courage. Et puis, n'hésitez pas quand même à balancer votre musique en France parce que.
Non, je vais le faire.
Voilà, vous savez, c'est plus petit, mais la France peut vous ramener ensuite aux États-Unis à nouveau.
Non, exactement. Non, je vais le faire.
Ça se tente en tout cas. Et comme je sais que vous tentez, donc ça se tente.
Ouais. Hein? Merci.
Portez-vous bien.
Merci,
au
vous
revoir,
aussi. Philippe. Bonne soirée. Au revoir.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est minuit 42, 43 même sur Europe 1. Ça fait du bien d'entendre une jeune femme comme Tiffany qui a vécu pas mal. Tiffany qui a pas mal vécu aux États-Unis et de voir qu'au retour comme ça avec cette spontanéité, elle peut lancer des analyses, plein de messages subliminaux et peut-être d'autres moins. Mais c'est vrai que nous sommes gâtés ici en France, nous sommes protégés. Et croyez-moi, chers amis, pour ceux qui en doutent, c'est une véritable chance. On accueille Nadjim maintenant au 39-21. Bonsoir Nadjim.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
J'espère que la radio n'est pas trop forte.
Non, écoutez, ça va très bien pour moi.
Écoutez, je suis très très heureux de vous avoir au téléphone. Je remercie Florian, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Qui est adorable, toute votre équipe, vos collègues aussi. Et vous m'apportez quelque chose qui s'était éteint. Et vous m'aidez à continuer de me battre contre la maladie, de me sentir moins seul. Je vous ai entendu hier soir, je vous ai trouvé adorable avec cette dame âgée qui a l'air de beaucoup vous apprécier, qu'elle a enregistré vos films et tout ça. Ça me fait beaucoup de bien. Et mon Dieu, comme c'est important d'avoir des gens comme vous, Olivier, comme votre collègue Sabine, si vous saviez le bien que vous me faites à moi, égoïstement, et à certainement énormément de monde. C'est tellement bon. Écoutez, tellement bon.
Mille merci, ça me touche énormément, ce que vous dites. Et j'espère que plus j'en ferai, mieux ça sera, bien évidemment.
Oui, parce que je vis dans une entière solitude. Je vis dans une entière solitude depuis maintenant 30 ans.
Pourquoi, Nadim, pourquoi? Elle est due à quoi, cette solitude?
J'ai honte de parler. J'avais l'habitude de faire un peu de choses comme ça, mais j'ai un peu peur de pas de choquer, mais de manquer de respect. Je voudrais être bien comme il faut. Comment je pourrais vous dire? Il y avait longtemps que je n'avais pas connecté sur des radios comme ça, studieuses. On sent que vous avez beaucoup d'amour dans votre tessiture de voix. Lorsque je vous ai entendu hier soir, l'écoute, la rigueur, vous n'interrompez pas. C'est tout le temps beau, vous aider, vous, Sabine, et je me sens moins seule. Et je me dis, mon Dieu, les gens ne se rendent pas compte qu'on va tout droit vers quelque chose d'extraordinairement beau. Contrairement à ce que peuvent croire d'autres gens. Parce que je vais vous expliquer, Olivier, je ne vais pas vous couper la parole, j'ai horreur de ça. Vous nous faites beaucoup de bien. Et c'est une dévotion. C'est comme être atteint d'une grave maladie comme moi. Et à l'époque, il y a 20 ans, avoir le sida, c'était une condamnation à mort. Donc il y a le coronavirus. Et je vais essayer de ne pas m'éparpiller. En 1900, je ne sais pas si je peux me permettre de continuer, Olivier.
Si, allez-y, je vous en prie.
J'étais un enfant battu, oui, avec un père dictateur. J'atterrissais tous les soirs à l'hôpital à Vicennes, en sang,
oui,
avec des traumatismes crâniens, un œil éborgné. Une fois, elle a voulu m'étrangler avec la corde du mouton de la fête de l'Aïd pour un carré de chocolat. Je ne comprenais pas. Il y a 40 ans, on n'avait pas le droit de parler. Pour moi, c'était normal. Je ne pouvais pas aller à l'école voir l'assistante sociale. J'avais honte.
Vous étiez avec un père ultra violent envers vous.
C'était une abomination que je l'adore. J'ai fait des prières en ce moment tous les vendredis soirs. Je lui demande pardon. Je lui pardonne pour qu'il parte vite là-haut, qu'il soit bien, parce que je le rêve beaucoup. Et alors c'est extraordinaire, c'est pas négatif.
Il n'est pas décédé, votre papa?
Il est décédé d'une. Il a contracté, d'après le docteur Berthelin, finalement à la fin. Malheureusement, je ne l'ai pas souhaité parce que je suis plein d'amour. Et j'ai aimé mon dictateur. C'est peut-être un Stockholm, je ne sais pas. J'écris un livre en ce moment. Il a construit un cancer du sein gauche. Et le médecin m'a dit, vous savez, c'est vous. C'est ce qu'il vous a fait. Et j'ai dit, non seulement je dois faire le deuil de ce qu'il m'a fait subir, et maintenant de prendre sa mort, trouver un deuil pour cette mort-là.
Prenez Nadim, prenez du recul par rapport à ce qui est arrivé avec votre père, parce que je pense que ce qu'a entendu votre médecin en vous disant ça, c'est que tout ce qu'il avait fait... au-delà de ce qu'il vous avait fait à vous, peut-être payait-il, oui, quelque part. Vous savez, quand on a beaucoup de colère, on dit que la colère finit par provoquer des choses à l'intérieur de notre, oui, corps qui finissent par nous empoisonner. Hein, la colère empoisonne.
J'ai osé dire ça. J'ai osé dire ça à un très grand psychiatre, hein, Henri Mandor. Il était très en colère. Je sortais d'une télé. Alors c'est très étrange, Olivier, parce que vous me rappelez votre voix, votre tessiture de voix me rappelle exactement la voix de M. Albert M. Salem, qui était directeur des programmes sur Antenne 2, je crois, à l'époque, qui m'avait découvert dans un endroit où on chante. Je chantais aussi. C'est la soirée des artistes.
Oui, avec Tiffany.
Ah non, maintenant, c'est fini. Je crois que c'est fini pour moi, quoique. Et M. Albert M. Salem, je sors de chez mon papa en sang, en sang, en sang. J'étais rentré de l'école Eugène de la Croix. À la maison, j'ai 14 frères et sœurs. J'étais peut-être le plus marginal, un petit peu maniéré comme ça, toujours chic. Je fréquentais les grands quartiers. Déjà à 17 ans, j'allais à l'avenue La Bourdonnais et tout ça. Je rêvais d'avoir mon appartement devant Champ de Mars et tout. C'était impossible. Ça s'est fait par la suite. Et mon père me met en sang. Il me met en déportation. J'avais l'impression d'être, il neigeait ce soir-là, je n'avais pas mangé depuis 3 jours. C'était une abomination, c'était le chaos. Il m'a fait dormir dans la neige, les pieds plantés dans la neige, et je m'en vais. À minuit, je prends le RER. Tout ça, ça va être beau à la fin, c'est pas du négatif. Je vais vous raconter pourquoi très vite. Je m'en vais, je prends le RER à Drancy, et je vais rue Montmartre.
Oui.
Je vais rue Montmartre. Parce que j'avais un ami animateur qui travaillait à Fréquence Gay à l'époque, adorable, oui. Extraordinaire. Mmh. Toute une équipe rue Sedaine là-bas dans le 11e, des gens fabuleux. C'était une autre époque. Ouais. On sortait dans le Marais, il y avait le Bronx, il y avait le Palace, il y avait Mandali, Régine. C'était l'époque disco.
Magnifique.
C'était extraordinaire.
La fête.
C'était extraordinaire, c'était extraordinaire. Quand j'arrivais boulevard Poissonnière en taxi, je me débrouillais toujours pour avoir un peu de thunes sur moi, ben, ouais. J'étais quand même pas mal, hein, donc je m'arrangeais,
ouais.
C'était, il fallait, on ouais. avait la cote et tout, c'était comme ça. Hein.
Bah, c'était
bon,
bien.
Je me prostituais pas, mais j'avais beaucoup d'amis qui m'aimaient, je les aimais, je les gâtais,
ouais.
Et on m'accompagnait, on me disait, Najim, tu as ta maquette là? Ah oui, mais c'est quoi? Ben, je dis, mon père, il vient de me frapper, tu vois pas que je suis enceinte? Ben oui, qu'est-ce qu'il a ton œil? Je dis, j'ai une cassette de Selawat en arabe. C'était le tube, c'est la voix de Caroline Loeb.
Oui, oui, je me souviens.
Et alors, Caroline Loeb avait sorti son maxi 45 tours, et à ma stupéfaction, sur le côté B, il y avait l'instrumental. Donc c'était très facile de faire une maquette, on mettait l'instrumental, on mettait un DAT,
oui.
Et hop, je dis, dépêche-toi, ça à la Radio Sud, fais-moi cette maquette, je la sens très bien, je vais trouver un sponsoring avec la Maison du Café, et je vais faire c'est la Watt en arabe.
Oui.
Il me dit, mais pourquoi? Je dis, ben écoute, alors il me fait prendre l'accent en arabe,
ouais.
Pour le dire c'est le kawa, c'est-à-dire c'est le kawa, je dis c'est le kawa, les gens pensaient que je chantais pour le Koweït,
ouais.
Il y a eu un gros scandale. Le lendemain dans la boîte presse, un article sort, le fils de Saddam Hussein chante, non pas du tout, je ne suis pas le fils de Saddam Hussein, je chante c'est la Watt. Et c'est extraordinaire, le monsieur qui m'a lancé à votre voix.
Ah d'accord, très bien.
Il a une voix soporisante comme
monsieur,
vous.
Monsieur Hansenem donc.
Oui, j'étais dans une boîte de nuit très bien, boulevard Poissonnière, et à 3h du matin, il y avait un spectacle où énormément de gens se produisaient. Et moi, alors j'avais pris le RER, il fallait voir comment cabosser et tout ça, mais c'est marrant, quand mon père me frappait, j'avais du charme. Quand je m'étais lavé le sang, j'avais fait mon brushing et tout,
oui.
J'avais de l'allure. Les gens me disaient, qu'est-ce que t'as fait? Je disais, non, je vais être tabassé par mon père.
Mais vous aviez 17 ans là, c'est ça?
J'avais 18 ans.
18 ans.
Je ne mangeais pas parce que j'étais anorexique mentale.
Mmh.
Et alors, ce qui est terrible, pour ça que je vais donner du courage aux gens, je vais vraiment donner du courage aux gens ce soir. J'ai osé dire ça à Dr. Rosenbaum, à Henri Mondor. Il m'a disputé. Il avait raison. Je lui ai dit, j'ai vécu une déportation. J'ai vécu une Shoah. J'étais en déportation toute ma vie. Je suis arrivé à 18 ans, j'ai contracté le virus du sida.
Mmh.
En 2002, j'ai fait une toxoplasmose cérébrale. Je déclenche le sida. Il me reste une semaine à vivre. C'est le professeur Olivier Lortolari qui me sauve à Avicenne, à l'hôpital Avicenne. Extraordinaire médecin.
Mmh.
Délicieux. Alors, ce qui était drôle, c'est que juste avant, j'atterris rue Pierre Charron. Je tombe sur une dame qui s'appelle Arlette Tabar. Elle me dit, c'est vous qui avez chanté dans la boîte de nuit hier soir? Je dis, mais vous êtes au courant de tout? Elle me dit, oui, notre directeur était dans la boîte de nuit, il vous a remarqué. Et moi, j'y suis allé vraiment, je ne sais pas pourquoi, je voulais y aller. Je voulais y aller, je n'avais pas d'argent. J'avais 1,50 € et je m'étais acheté un pudding au chocolat. C'est le gâteau le moins cher, rue Montmartre.
Ouais.
Je n'avais rien mangé avec un bol de café au lait. Et je savais que ce soir-là, il se passerait quelque chose parce que il y avait le chanteur de One One, le mec qui chantait Rah, to the beat, Rah. Il m'a dit, il y a un producteur qui sera là ce soir, viens. Ah bon, ben je viens. Et là, je vois ce monsieur Albert M. Salem qui vient vers moi. Et il me dit, Najim, je t'ai vu chanter. Je t'ai vu chanter. Je t'ai vu chanter. Tu as fait un sketch au début, voilà, c'est ça. Je vais t'envoyer voir Thierry Martin, le producteur de Smaïn. On va faire Selawat. Il me fait signer chez Bird.
Oui.
je passe devant Ivros, le producteur qui a fait Stéphanie de Monaco comme un ouragan et tout.
Ouais.
Et alors, c'est pas pour faire la star, vous allez comprendre tout de suite. Arlette Tabat me programme. Alors, c'est très drôle, je vais rue Pierre Charon sur les Champs-Élysées. J'avais très peur de voir toutes ces grandes avenues avec ces grandes pierres de Vaugirard, ces grands immeubles, Charles de Gaulle étoile. J'avais peur. Vous savez, quand on est jeune, on a peur quand on arrive là-dedans. Et j'arrive dans le studio, je vois Arlette Tabar, la réalisatrice, Albert Imsalem de France 2. Il me dit, Nadine, tu passes en exclusivité dans 2 jours à la télé.
Super.
Ah bon, j'ai dit, c'est pas possible.
Et Nadine, oui, ça t'appelle. Si, même si on se reparle demain, hein, il nous reste 5 minutes 30. Donc je vous le dis, parce que et si on est interrompu avant, on continuera ça demain. D'accord ?
Oui, demain. Bah, tout ça pour vous dire, je vous embête pas, que je signe le contrat, et puis le lendemain, j'apprends que j'ai le sida.
Oh, d'accord.
Voilà, le lendemain, je vais à la Salpêtrière, j'avais un ganglion gros comme ça dans mon cou.
Ouais.
Et le docteur Gantellini me dit, c'est pas le moment d'aller chanter. Je dis, mais je vais avoir des télés, des radios, des contrats, je vais devenir une star. Non, 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 monsieur Lala, vous avez certainement un sida prononcé, il vous reste 3 CD4, CD8. Vous n'avez plus de défense immunitaire et vous avez une toxoplasmose au cerveau.
Bon, et donc les choses sérieuses là, enfin en tout cas les choses importantes pour vous étaient plus du côté de l'hôpital, je suppose.
Voilà. Donc tout a été transvasé à l'hôpital et a commencé un grand combat. Je commençais à préparer mon deuil pour partir. J'étais persuadé qu'il allait partir. Et je suis encore là. Oui. Et c'est ce que je voudrais dire à tous ces gens qui ont peur actuellement. Il va y avoir de belles choses. On en parlera demain soir.
Carrément,
si vous
avec grand plaisir.
J'ai quitté ma maison de disques de l'après-midi. Isabelle Perrier... il y avait Manu Dibango à la chapelle qui m'avait pris dans ses bras, qui m'avait dit tiens le cou, je dis mais tu vois pas comme je suis maigre, parce que j'étais pas traité, j'avais pas traité thérapie à l'époque. Il m'a dit mais tu vas réussir.
À l'époque, il était avec son accent. Tout, on a dit, je crois. Hein. Au moment où on vous déclare le sida, il n'y a pas de trithérapie encore.
Il n'y avait pas de trithérapie. Et je suis resté 20 ans sans trithérapie. Et je suis resté 20 ans à faire des génotypages. J'ai attrapé une neuropathie de tous les membres supérieurs, donc je ne marche plus. Je me sers, j'ai deux dames qui viennent parce que j'ai des décharges électriques. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'être à Auschwitz, avec toute l'indignation que j'ai pour la Shoah, ce chaos. Et un jour, j'ai écouté une radio où il y avait Marceline Loridan, vous connaissez, une des dernières rescapées d'Auschwitz, avec Simone Veil. Et l'animateur, comme vous, lui a dit, mais Marceline, avec tout ce qui s'est passé, vous n'avez jamais eu peur? Et elle a répondu, non, j'ai jamais eu peur. C'est peut-être ce qui m'a sauvée.
Oui, vous n'avez jamais eu peur, vous?
Pour moi, je ne devais pas mourir. Tant que je n'étais pas passé à la télé, j'ai fait 40 degrés à l'ombre de la Troie, j'ai fait Sacré Soirée, j'ai fait Fabrice, j'ai fait La Classe.
Ouais.
Et puis après, un coup de magie, il n'y avait rien. Hein. C'était couvre-feu dehors, tout le monde était confiné. Et moi, j'étais parti dans un sauna homosexuel, mon père m'avait tabassé, il avait voulu m'étrangler avec la corde du mouton. J'étais tellement choqué, j'étais griffé partout, je suis parti dormir dans un sauna homosexuel.
Ouais.
Et je me suis fait contaminer volontairement. C'était un suicide annoncé.
Votre père...
Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Il y a un monsieur qui m'a dit, viens dans la cabine. Je ne savais pas ce que c'était.
Ouais.
Il m'a dit, viens dans la cabine, tu veux une cigarette? Je dis, mais je veux même autre chose. Parce que moi, j'étais dans des addictions avant. Ouais. Puis maintenant, je suis très bien. J'ai des soignants marmottants.
Votre père, Nadim, il vous battait pourquoi exactement, en fait?
Il me battait... Alors, quand j'avais mon salon de coiffure, il m'arrachait tous les cheveux. Une fois, il m'arrachait tous mes cheveux. Il m'a emmené en Algérie. Il m'arrachait tous mes cheveux avec du goudron et des feuilles. Mmh. Il m'a pendu à côté du mouton avec la corde. Il m'a dit, t'es pas un homme, t'es une femme. Il m'a craché sur le visage. Il m'a dit, visage de femme, tes frères, ils vont te tuer. On va te tuer, je t'emmène en Algérie. J'avais pas le droit de manger le soir. J'avais pas le droit de goûter. Le jour il m'a vu à la télé, je vais faire un C'est drôle de dame avec Arlette Tabar, avenue Montaigne, rue Pierre Charon, il me voit à la télé, je rentre, il me casse le nez, je rentre avec ma djellaba, parce que mon producteur m'avait acheté une djellaba, des babouches, on avait fait un look un peu le moins cher à Barbès Rochechouart, et il m'a tabassé, j'étais en sang, et j'appelle mon producteur, il me dit alors ils sont contents tes parents? Il dit mais Robert, je suis en sang.
Il m'a dit, mais la télé, elle passe en différé dans 2 jours, ils ne sont pas contents.
Bon, mais c'est...
Ça a été très dur.
Ouais. Bon, on continuera cette discussion demain, si vous le voulez bien, Nadim, parce qu'on n'est pas allé au bout de
ce où
on devait aller. Mais vous êtes tout excusé, mon cher.
C'est juste, vous m'avez fait du bien.
C'est juste que je vous ai pris un petit peu en retard et on rééchange demain. Vous voulez bien ?
Voilà.
Hein ?
Donc, pour dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que moi je pensais que j'allais mourir. Je préparais la caisse noire pour me faire enterrer en France ou en Algérie.
Nadim,
et on est encore là.
Comme c'est la fin, et vous êtes encore là, et vous leur redirez demain soir, parce qu'on évoquera un peu plus précisément votre fureur de vivre, justement. Je vous dis bonsoir et je vous dis à demain, Nadim.
Oui, merci.
Au revoir.
Merci, Olivier. Merci, vous êtes adorable.
Nadim.
Merci à vous tous.
Merci. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. On retrouvera Nadim demain, on prendra un moment pour partager avec lui. C'était génial encore ce soir de passer ce moment-là avec vous. À demain 22h30. Salut. Europe 1, il est 1h du matin.